Lundi 19 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et Europe 1 est à l'heure britannique, comme vous venez de l'entendre à l'instant, pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Europe 1 en direct de Westminster Hall dès le début de ce journal. C'est là que le cercueil de la souveraine est exposé. Les Londoniens se pressent pour lui rendre un ultime hommage avant la fermeture des portes. C'est dans une petite demi-heure. Nous serons également à Hyde Park où 100 000 personnes suivront ses funérailles devant des écrans géants, des obsèques grandioses et une procession qui va durer 45 minutes. Tous les détails avec Lionel Gougelot qui est sur place. Dans le reste de l'actualité, la réforme des retraites qui sème la zizanie dans la majorité présidentielle. Il y a ceux qui veulent aller vite, ceux qui estiment au contraire que le moment est mal choisi. Et puis le basket, la France battue en finale de l'Euro hier soir face à l'Espagne. Le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Londres s'apprête à vivre les obsèques du siècle. Elles débuteront à midi, heure de Paris. Le cercueil de la reine repose toujours au palais de Westminster, l'occasion d'une ultime veillée funéraire pour les londoniens avant la fermeture des portes et le transfert de la dépouille à l'abbaye. On retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Londres. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Vous êtes devant le palais de Westminster. Dans une demi-heure, ce sera terminé. Les londoniens ne pourront plus franchir les portes.
Oui, c'est vrai, la file d'attente avance encore devant moi, couverture sur les épaules souvent après une nuit passée dehors, il ne fait pas chaud à Londres. Ces personnes sont vraiment les dernières qui vont effectivement entrer à Westminster Hall et qui vont pouvoir s'incliner devant le cercueil de la souveraine dans une demi-heure. C'est terminé.
Alors Stéphane, le monde entier va avoir les yeux braqués sur Westminster puisque c'est là que tout va se passer.
Oui, bien sûr, des centaines de têtes couronnées, l'empereur japonais Naruhito, le roi Philippe d'Espagne, Albert de Monaco et puis des chefs d'État évidemment, Emmanuel Macron avec son épouse bien sûr, Joe Biden, le président américain qui a refusé, vous savez, de se rendre à l'abbaye de Westminster dans l'un des bus spécialement affrété. Il arrivera ici dans son énorme limousine blindée. 2000 invités en tout qui vont assister à cette cérémonie. Le cercueil d'Elisabeth II sera transporté sur un affût de canon tiré avec des cordes par des marins de la Royal Navy. C'est la tradition. Et à 11h débuteront les funérailles d'État avec un sermon de l'archevêque de Canterbury. 55 minutes plus tard, tout le pays observera une minute de silence. Résonnera ensuite l'hymne national et c'est le joueur personnel de cornemuse d'Elisabeth II qui jouera lui à la mi-journée ici à Westminster la complainte finale du service religieux.
Stéphane Place en direct du Westminster Hall dont les portes vont donc se refermer dans moins d'une demi-heure maintenant.
Voilà, des funérailles d'État pour Elisabeth II. Les dernières, c'était celle de Winston Churchill en 1965. On réécoutera ça tout à l'heure dans 20 minutes avec Laure d'Autriche. Alors l'autre temps fort de ces obsèques, bien, c'est bien sûr la procession du convoi funéraire qui aura lieu après la cérémonie à travers Londres.
2 millions de Britanniques sont attendus le long du parcours funéraire. On retrouve tout de suite Lionel Gougelot en direct de Hyde Park. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous.
Les Londoniens, et pas seulement les Londoniens d'ailleurs, se sont donné rendez-vous devant cet immense parc pour voir passer le cercueil de la reine.
Oui, c'est l'un des endroits où effectivement où l'on verra passer le cercueil de la reine. Certains ont même dormi sur place, figurez-vous, en mitouflé dans un sac de couchage ou recroquevillé sur une chaise pliante ici devant l'une des entrées du parc qui donne accès donc au parcours de la procession. Je suis en fait à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où le cercueil de la reine arrivera à la mi-journée pour être transféré dans le corbillard direction Windsor. Et vous imaginez bien que cet instant, Doane et Steve ne voulaient le manquer pour rien.
Nous avons pris un train à minuit pour arriver ici. Nous n'avons pas dormi. Je travaillais, donc je n'ai pas pu monter dans un train avant. C'est vraiment ma dernière chance de voir cette femme remarquable.
Nous sommes venus tôt. On a donc une très bonne place pour rendre notre dernier hommage et voir des funérailles que nous n'avions jamais vues auparavant.
Alors au-delà du dernier hommage, vous l'entendez, il y a aussi la sensation pour ces Britanniques de vivre un moment d'histoire pour le Royaume. Pour ceux qui ne pourront pas s'approcher de Westminster, il y aura une diffusion de la cérémonie sur plusieurs écrans géants dans Hyde Park, derrière moi, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues. Des Britanniques qui se plient volontiers, il faut bien le dire, ce matin, aux contraintes de sécurité, aux files d'attente et aux parcours obligatoires. Vous savez, me disait ce matin une jeune mère de famille, nous, les Britanniques, nous sommes un peuple patient.
Lionel Gougelot, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Londres en direct de Hyde Park. Et effectivement, il va falloir beaucoup de patience.
Ah bah, ils l'ont prouvé, leur patience, les Britanniques, ces dernières heures. Je vous rappelle, c'est jour férié aujourd'hui au Royaume-Uni. Europe 1 vous fera vivre cette cérémonie exceptionnelle dans Europe Midi avec Romain Desarbres à partir de midi, avec tous ses invités, nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, comme vous venez de les entendre. Il est 7h05 sur Europe 1. Voilà un dossier qui menace d'empoisonner le climat dans la majorité présidentielle, la réforme des retraites. Elle est loin de faire l'unanimité, du moins en ce qui concerne la méthode.
Emmanuel Macron veut accélérer le calendrier de cette réforme mise de côté pendant l'épidémie de Covid-19. Parmi les pistes explorées par le chef de l'État, celle d'un amendement glissé à l'occasion du débat sur le financement de la sécurité sociale. Le tir de barrage ne s'est pas fait attendre. L'opposition dit non, mais au sein même de la majorité, certains comme François Bayrou demandent au chef de l'État de ne pas confondre vitesse et précipitation.
La réforme des retraites est vitale. Elle est une nécessité pour le pays. Mais si l'on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien il faut la conduire selon une méthode que le président de la République a présentée dans l'élection présidentielle. C'est même l'engagement majeur qui a été le sien, qu'il y a une probabilité certaine pour qu'au bout du chemin, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le 49-3. Peut-être on peut l'éviter, mais il n'y a rien d'infamant à utiliser le 49-3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49-3 sans la préparation nécessaire pour le texte.
Le président du MoDem, François Bayrou, invité du grand rendez-vous sur Europe 1 hier avec Sonia Mabrouk.
En bref, à gauche, les aveux d'Adrien Quatennens plongent la NUPES en crise.
Le député La France Insoumise reconnaît avoir donné une gifle à son épouse alors que le couple est en instance de divorce. L'affaire ravive le débat au sein du parti et même de l'ensemble de la coalition de gauche sur le traitement des violences faites aux femmes. Mis sous pression, Adrien Quatennens a décidé de se mettre en retrait du mouvement, mais conserve pour l'heure son fauteuil de député LFI.
À cette crise à gauche, on en parlera à 8h40. Dans le club de la presse Europe 1 avec Charlotte Dornelas et Carole Barjon ce matin. Aux États-Unis, l'avertissement de Joe Biden aux dirigeants chinois, ne touchez pas à Taïwan.
Mise en garde lancée dans le cadre d'un entretien accordé à la chaîne américaine CBS, interview en forme de premier bilan à 2 mois des élections de mi-mandat. Joe Biden ne sait pas s'il sera candidat à sa succession en 2024. Ce qu'il sait en revanche, c'est que les États-Unis n'hésiteront pas à prendre les armes si la Chine devait envahir Taïwan.
Nous sommes en accord avec ce que nous avons signé il y a longtemps. Il y a une politique chinoise jusqu'ici qui fait son propre jugement. Mais nous ne bougeons pas et nous n'encourageons pas cette indépendance. C'est leur décision.
Pour être clair, monsieur, les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise?
Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire.
Le président américain Joe Biden hier soir sur la chaîne CBS.
Et puis la déception pour les basketteurs français, sèchement battus en finale de l'Euro hier soir.
Battus par leur meilleur ennemi, l'Espagne s'impose 88-76 et s'offre un 4e titre européen. Martin Lange, l'équipe de France a perdu pied beaucoup trop vite.
Oui, les Bleus ont très mal débuté leur match hier, mené 9 points à la fin du premier quart-temps. Un écart qu'ils n'ont jamais réussi à combler malgré le gros match d'Evan Fournier, auteur de 23 points. L'autre star des Bleus, le géant Rudy Gobert, a lui été parfaitement contenu par la défense espagnole. Seulement 6 petits points pour le pivot qui pointait lui aussi au micro de Canal+, la délicate entrée en matière de ses coéquipiers.
Ils ont fait une très bonne entame. Ça a été dur pour nous de... Voilà, on en a joué derrière tout le match. On a eu des bonnes séquences, mais c'était pas suffisant.
Les Bleus qui repartent tout de même avec une très belle médaille d'argent à la 3e médaille de rang en compétition internationale après la Coupe du Monde en 2019 et les JO l'an dernier. Même sans Nicolas Batum, même sans Nando De Colo, ils ont été compétitifs et c'est peut-être le principal enseignement à moins de 2 ans des JO de Paris.
Martin Lange du service des sports d'Europe.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Dans un instant, Jeremy Stubbs, le rédacteur, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur sera avec nous pour parler des funérailles d'Elisabeth II dans 10 minutes. Ils sont bien payés, ils connaissent pratiquement pas le chômage. C'est pourtant le grand malaise en ce moment chez les cadres. Ce sera le thème de l'édito de Nicolas Bouzou. A tout de suite.
I declare before you all that my whole life shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
Europe Matin.
La voix d'Elisabeth II, c'était en 1952, lorsqu'elle héritait de la couronne. 70 ans plus tard, le Royaume-Uni lui fait aujourd'hui ses ultimes adieux. Ce sera à vivre en direct sur Europe 1 à partir de midi avec Romain Desarbres. Pour l'heure, nous sommes en ligne avec le journaliste britannique Jeremy Stubbs. Bonjour Jeremy.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors, je précise, vous vivez en France. Hein, vous êtes entre autres le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Est-ce qu'on se figure bien, Jeremy Stubbs, la scène qui va commencer à se jouer à Londres à partir de 11h, 11h britannique, hein, midi en France? Je disais, c'est un spectacle en fait que la monarchie britannique va offrir à la planète tout entière. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui dépasse un peu notre imagination parce que on en a vu des funérailles dans le passé. Mais là, c'est tous les yeux de la planète pratiquement vont être tournés vers Londres. Les foules seront immenses. Déjà, les foules de journalistes et d'équipes de télévision seront énormes aussi. Donc, il y a des chefs de pratiquement tous les États, pas tous bien sûr, mais 500 invités de marque du monde entier. Oui. C'est l'événement, on peut dire, du siècle, oui. Entre guillemets.
Plus de 2000 invités dans l'abbaye de Westminster, plus de 100 chefs d'État, de gouvernement ou monarques. Naruhito, l'empereur du Japon, c'est la première fois qu'il sort du Japon pour venir se rendre à Londres aux obsèques de la reine. Il y a quelque chose d'absolument unique dans cette cérémonie. Et puis, quand on regarde dans les détails de l'organisation, Jeremy Stubbs, on plonge dans les racines de l'histoire du royaume d'Angleterre. Par exemple, le cercueil de la reine. Je lisais qu'il a été fabriqué il y a environ 30 ans sur un modèle, lui, qui a plus de 400 ans.
Oui, oui, et il est fabriqué en chêne anglais, qui est le bois traditionnel de l'Angleterre, qui a été utilisé pour fabriquer les navires de sa marine à l'époque où tout était en bois. Oui, chaque détail est symbolique et rappelle le passé.
Le Royaume-Uni va être totalement à l'arrêt aujourd'hui. Je le disais, c'est un jour férié. Alors vous qui vivez ces événements en tant que Britannique, mais depuis la France, comment vous regardez ce qui va se jouer aujourd'hui ?
Eh bien, ce qui est déjà remarquable, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions ici en France. Donc on ne se sent pas coupé, en quelque sorte, des événements de Londres, parce que on sait que même si en France on travaille, il y a beaucoup qui partagent cette émotion. Mais beaucoup des personnes qui ont parlé de leur raison d'être là à Londres aujourd'hui, ou pour avoir fait la queue pendant des heures pour voir le cercueil de la reine, disent qu'ils veulent faire partie de l'histoire. Et on se demande ce que ça veut dire, faire partie de l'histoire. Je pense que ce qu'ils veulent dire à leur manière, c'est qu'il y a quelque chose là de transcendant. On fait partie de quelque chose de plus grand que soi. On fait partie de quelque chose presque de sacré, sans vouloir aller trop loin dans ce sens-là. Mmh. Et je pense que c'est un moment très important dans la vie de chacun, curieusement.
Oui. D'où l'importance aussi du protocole qui va être déployé aujourd'hui, de la lenteur aussi de cette cérémonie, du passage du cercueil à travers la ville au milieu des Britanniques. Alors à propos de la famille royale, Jeremy Stubbs, on l'a beaucoup vu, on a beaucoup parlé d'elle ces 10 derniers jours. Qu'avez-vous observé de particulier de la famille royale britannique ?
Mais d'abord, il y a une solidarité de la famille autour de Charles. Parce que Charles, il a désormais une charge énorme. Il doit prendre la place, en quelque sorte, de celle qui est irremplaçable. Donc, il a besoin de sa famille. On a vu que toute la famille était là. On a vu aussi un possible rapprochement entre les deux frères, William et Harry. Mm-hmm. On ne sait pas combien de temps ça durera, quelle est la profondeur de ce rapprochement, mais on sait que souvent les morts peuvent être les causes de division au sein des familles, mais aussi de rapprochement. Mm-hmm. Donc la famille est quand même plus unie aujourd'hui que dans un temps récent.
Et on l'a vu à plusieurs reprises ces 10 derniers jours, cette famille royale aller à la rencontre de leurs sujets, entre guillemets, enfin pas sans guillemets d'ailleurs, que ce soit dans les premières heures après le décès de la reine, mais aussi encore ce week-end, notamment juste avant une veillée habillé funèbre de la famille royale auprès du cercueil d'Elisabeth II. Mm-hmm. C'est inédit, ces bains de foule, si je puis dire, de la famille royale.
La famille royale a l'habitude de ça parce que la plupart des membres les plus importants de la famille on assiste à beaucoup d'événements, des événements par exemple liés aux ONG charitables, etc. etc. Donc la famille a l'habitude de ce genre d'événements, mais je crois que là, on a atteint un niveau supérieur. Mmh. Et bien sûr, c'est encouragé par le fait que la foule a envie de voir du royal, si je puis dire.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. La foule veut du la foule veut du royal. La formule est assez choc, mais c'est tout à fait ça. Dernière question pour vous, Jeremy Stubb. Et la popularité de la monarchie dans tout ça. Je vous ai entendu dire ces derniers jours que vous pensez qu'il y aura des secousses dans le Commonwealth, que peut-être la mort d'Elisabeth II sera l'occasion d'une remise en cause de l'appartenance à la couronne britannique et même au sein du Royaume-Uni, du principe même de la monarchie. Vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça?
Mais nous savions déjà que des mouvements se préparaient dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire que tout cela va aboutir. Ça dépend en partie des actions de Charles et pour le moment, ses premiers pas sont très assurés. Mais nous savons que certainement au sein du Commonwealth, il y a un petit mouvement, mais ça prendra du temps pour remplacer le monarque comme chef. Mais ça prendra du temps. Ce qui va arriver plus vite, je pense, c'est que ces nations qui restent, ces États qui ont le monarque pour chef d'État, il y en a au moins 6 qui vont commencer un processus pour changer de régime en quelque sorte. Ça prendra du temps, mais on sait que ça va commencer dans certains pays, particulièrement les États du Caraïbe.
Oui. Merci Jeremy Stubbs. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Les funérailles royales, c'est sur Europe 1 toute la journée. Et je vous rappelle notamment en direct à partir de midi avec l'ami Romain Desarbres. Pour l'heure, il est 7h20 sur Europe 1.
Europe 1. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors selon une étude de l'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres, un cadre sur 4 estime sa santé mentale dégradée. Ce chiffre vous inquiète.
Oui, c'est une confirmation du malaise des cadres et du problème du management dans les entreprises. Je vous donne quand même les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires. 55% des cadres éprouvent un sentiment de surcharge. 54% souffrent d'épuisement professionnel. 19% ont dû prendre un arrêt de travail pour ces raisons. C'est pire chez les managers. 65% ont le sentiment d'une charge de travail insurmontable. Et plus de 60% des managers sont en épuisement professionnel. Bon, ce problème est majeur. Il est majeur pour les personnes concernées, bien évidemment, mais aussi pour l'économie française. En France, trop peu de gens travaillent parce qu'on arrive tard sur le marché du travail, parce qu'on part tôt en retraite, parce qu'il y a encore beaucoup de chômage. Mais parmi ceux qui travaillent, beaucoup travaillent trop et mal, pris en étau dans des injonctions contradictoires, des réunions qui ne servent à rien, des managers pas toujours compétents. C'est un vrai problème de productivité pour notre économie.
Des managers incompétents, vous dites, waouh, quand même.
Ouais, c'est un non-dit dans les entreprises, mais en France, le management est vu comme une promotion et non comme une compétence ou comme une vocation. Tu es un bon technicien, tu seras un manager. Non, ça marche pas comme ça. Les qualités sont pas forcément les mêmes. C'est mauvais pour le collaborateur.
C'est tellement vrai ce que vous dites.
C'est mauvais pour le collaborateur qui est mal managé. C'est mauvais pour le nouveau manager qui peut se trouver en situation de surcharge et d'échec. Bref, tout le monde est perdant.
D'où peut-être effectivement ce sentiment d'épuisement qu'on n'est pas forcément à sa place quand on est manager.
Absolument.
Alors l'étude de l'APEC, elle porte sur les entreprises. Est-ce que c'est pareil dans le public ?
C'est pire, qu'il s'agisse des cadres ou des non-cadres. D'ailleurs, regardez l'éducation nationale. Quasiment plus personne ne veut être enseignant. 5000 postes sont restés vacants cette année suite au concours de l'éducation nationale. J'ai malheureusement passé une grande partie de ces derniers jours dans les hôpitaux. C'est ce qu'on peut faire de pire en matière de gouvernance et de management. Des process idiots, des silos en acier, une bureaucratie infernale. C'est catastrophique pour les personnels soignants. Ça explique d'ailleurs les nombreux départs de l'hôpital public. Et au passage, c'est pas bon pour les patients. Au-delà du problème des cadres, Dimitri, il y a une crise de motivation dans notre pays. Est-ce que la hausse des salaires suffira à apaiser ce malaise? Ça n'est pas certain. L'argent est absolument nécessaire, ça ne fait aucun doute, mais ça ne suffit pas. On n'achète ni la motivation, ni le sens.
Ouais, le moteur de la grande démission n'est évidemment pas que salarial.
Absolument.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince.
2000 invités, dont 500 dirigeants venus du monde entier pour les funérailles du siècle, celles d'Elisabeth II. Elles débuteront à midi à l'abbaye de Westminster, cérémonie que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Succès pour les journées du patrimoine ce week-end. Et parmi les lieux qui ont eu le plus de succès, le ministère de la Culture cite le château de Fontainebleau, l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou encore le château d'Angers. Et puis la désillusion pour la France, les Bleus se sont inclinés en finale de l'Euro de basket hier face à l'Espagne, 76 à 88. C'est le quatrième sacre pour les Espagnols.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Ce sont des funérailles d'État que le Royaume-Uni offre à sa reine Elisabeth II. Aujourd'hui, c'est très particulier des funérailles d'État. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Les dernières obsèques du genre outre-Manche furent celles de l'ancien Premier ministre Winston Churchill, le héros de la Seconde Guerre mondiale, mort à l'âge de 90 ans. C'était le 30 janvier 1965.
Oui, ces funérailles nationales ont un caractère grandiose, jamais vu pour un roturier. Elles sont d'habitude réservées aux souverains. Mais dans la cathédrale Saint-Paul, une moquette de couleur bleu roi a été posée, celle à laquelle ont droit les souverains britanniques.
Au milieu du chœur, le cercueil vient d'être reposé. Devant lui, l'autel. La chorale dans le fond, en surplis blanc et soutane noire. Les héros d'armes de la cour d'Angleterre qui portent sur leur veste un baudrier noir en signe de deuil.
Le journaliste Julien Besançon est sur place pour Europe 1. Churchill a choisi un passage, le début d'un épître de Saint Paul, qu'il voulait qu'on lise pour ses funérailles.
Ô Seigneur, laissez-le, laissez-nous maintenant aller en paix.
Vous entendez en ce moment les trompettes de la maison du roi qui, sous le dôme de Saint Paul, l'un des plus hauts du monde, sonne la fin de cette cérémonie funèbre.
Cette sonnerie aussi a été commandée par Churchill. C'est la sonnerie aux morts du régiment de la garde galloise dans lequel il avait servi. Et des membres du régiment assistent aussi aux obsèques. L'archevêque de Canterbury, croix à la main, finit par bénir le cercueil et la cérémonie est terminée.
Et à la sortie, lors les cornemuses se font entendre devant la tour de Londres. C'est le dernier acte de ces obsèques nationales.
Oui, le cercueil de Churchill remonte la Tamise en bateau. Dans les rues de Londres, les magasins sont fermés. Les télévisions et radios ont arrêté leur transmission pendant une heure. Aux obsèques, 112 pays sont représentés. Seule la Chine populaire est absente. Pour la France, le général de Gaulle est là. Et deux invités de Churchill sont là également à titre personnel.
L'ancien général en chef Eisenhower, ancien président des États-Unis, et Paul Reynaud, ancien président du Conseil.
Et les journalistes, les commentateurs le disent ce jour-là, l'unité politique aujourd'hui est de mise, mais dès demain, elle sera terminée.
Merci Lord d'Autriche, Europe 1. À l'heure anglaise, ce lundi, nos reporters sont à Londres pour vous faire vivre les funérailles du siècle. Ce sera à partir de midi avec Romain Desarbres. Tous ces invités, nos reporters, grâce à eux, vous ne manquerez rien de cette cérémonie que vont suivre plus de 4 milliards de personnes sur l'ensemble de la planète. Dans le prochain journal, justement, nous irons du côté de Hyde Park. C'est à deux pas de la cathédrale de Westminster, 7h26.
Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Et le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Les derniers Britanniques, une dizaine, quittent en ce moment Westminster Hall, là où le cercueil de la reine était exposé depuis mercredi. Les portes de l'édifice vont se fermer dans quelques minutes. Prochaine étape à 11h44 précisément. Début de la procession jusqu'à l'abbaye de Westminster, lieu des funérailles d'Elisabeth II. Une cérémonie est retransmise sur écran géant dans tout le Royaume-Uni et bien sûr à Londres, où l'on vous retrouve. Thibaut Hu, bonjour.
Bonjour.
Thibaut, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, positionné sur la pelouse de Hyde Park, où les autorités attendent 100 000 personnes et déjà les premiers s'installent, Thibaut.
Oui, tout à fait. Ils sont déjà une centaine, assis devant les 6 écrans géants, emmitouflés dans des couvertures. Certains avec des bonnets et des écharpes. Il ne fait pas très chaud. Il faut aussi dire qu'ici, aujourd'hui, eh bien, c'est férié. Les Britanniques peuvent donc se déplacer en nombre et tôt pour s'installer et suivre les funérailles. Hayley est arrivée du nord de l'Angleterre en voiture dans la nuit. Elle était la première à franchir les grilles du parc.
Nous sommes venus ce matin très tôt parce qu'on voulait être aussi proche que possible de l'écran pour ne rater aucun moment de ce qui va se passer ce matin. Alors je suis assise dans une chaise de camping avec une tasse de thé et on va attendre un long moment. Je suis très émue pour être honnête. Je suis très joyeuse aussi d'être ici. C'est tellement important, une part d'histoire.
Voilà, et le dispositif est impressionnant dans ce parc immense, le plus grand dans le centre de Londres, un lieu qui a l'habitude d'accueillir de grands événements comme des concerts. Alors tout est organisé pour que les visiteurs n'aient pas besoin de sortir du site. Des points de restauration et même des sanitaires ont été installés tout près des écrans. Et le quartier d'Hyde Park risque bientôt d'être submergé par la foule, car c'est notamment par ici que le cercueil de la reine va passer pendant la procession en fin de matinée.
Merci Thibaut, en direct de Londres pour Europe 1. On va vous retrouver tout au long de la matinée, Thibaut, de même que tous nos envoyés spéciaux dans la capitale britannique. Édition spéciale de Romain des Arbres et de ses invités d'Europe Midi. À partir de midi donc, jusqu'à 14h, la cérémonie comme si vous y étiez. Événement suivi également par la planète tout entière.
Oui, 4 milliards de téléspectateurs attendus, la moitié de la population mondiale d'après les projections des médias britanniques. Seule une partie du protocole échappera aux caméras, l'inhumation de la reine au château de Windsor.
Et oui, c'est là qu'Elisabeth II reposera aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son époux. Le prince Philippe, décédé l'an dernier. Windsor, l'une des résidences préférées de la reine, où elle vivait d'ailleurs la plupart du temps. Une voisine d'ailleurs pour les habitants de la ville, rencontrée par Anaïs Cordoba pour Europe 1. Écoutez.
Collée aux vitres de ce pub historique de Windsor, des photos d'Elisabeth II à chaque époque de sa vie. C'est ainsi que Stuart, le patron, a voulu rendre hommage à la reine et à cette voisine qu'il apercevait régulièrement à quelques mètres de son pub dans le parc du château. Il est encore sous le choc de l'annonce de son décès.
Tout ça est encore irréel. On n'a toujours pas réalisé ici parce qu'elle n'est pas à la maison. Mais quand elle va finalement revenir ici, chez elle avec nous, à Windsor, pour être enterrée, c'est le moment où ça va être très triste.
Le fait que la reine repose à Windsor procure un sentiment de réconfort et de fierté à ses habitants, comme Margaret, venue se recueillir devant le château. Épouse d'un ancien maire de la ville, elle a personnellement rencontré la reine à plusieurs reprises.
Elle a dû rencontrer des millions de gens dans sa vie. Mais au moment où vous la rencontriez, elle vous faisait vous sentir unique. Vous vous rendiez compte de combien elle travaillait, de son dévouement et de sa gentillesse.
Seule consolation à Windsor, la présence nouvelle du prince William qui vient d'emménager dans la ville en famille. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.
7h34, retour en France avec ces deux questions. La barrière du passage à niveau était-elle bien fermée? Et qui est responsable finalement? Le procès de l'accident de bus scolaire de Mias s'ouvre aujourd'hui à Marseille.
Alors les experts ont déjà exonéré la SNCF. Aucune défaillance du dispositif ferroviaire sur le banc des accusés. Il n'y a donc qu'une seule personne, c'est Nadine, la conductrice du car.
Oui, elle qui a heurté un TER le 14 décembre 2017. 6 collégiens tués, 17 blessés. Dans les Pyrénées-Orientales, notre correspondant Benjamin Péter a rencontré les familles des victimes en quête de vérité.
Moi, personnellement, j'ai perdu un enfant. Mon fils était coupable de rien. Moi, je suis coupable de rien. Ma femme, elle est coupable de rien. Et nous, on a pris perpétuité.
Alors Fabien Bourgeonnier, le père de Loïc, n'attend pas grand-chose de ce procès. Avec l'association à la mémoire de nos anges qu'il a créée, il veut que cette audience serve à faire changer les choses, enfin sécuriser les passages à niveau.
Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Effectivement, ça a un coût financier, c'est sûr. Mais est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est plus coûteux? Une vie? Là, nous, on a perdu 6 enfants. Il y a 17 autres enfants qui sont traumatisés par ce drame. Est-ce que ça vaut le coup? Là, peu importe le résultat du tribunal. Ce qu'il faut travailler, c'est là-dessus.
Suzanne Fabresse a perdu son petit-fils, Jonas, âgé de 11 ans. Pour elle, Nadine, la conductrice, est une coupable toute trouvée. Elle pointe la responsabilité de la SNCF ou des élus qui n'ont pas suffisamment sécurisé le trajet des bus scolaires.
Ils ne seront pas là. C'est très scandaleux. Et d'avoir la SNCF en partie civile, c'est encore plus scandaleux. C'est une honte. Je préférerais être sur le banc à côté de Nadine que sur le banc avec la SNCF. Pour elle, c'est un accident. Ce n'est pas sa faute à elle. C'est la faute à tous ceux qui n'ont pas pris en compte qui pouvaient éviter l'accident.
Et comme de nombreuses familles, elle sera à Marseille pendant 3 semaines pour essayer de comprendre ce qui a conduit à la mort de ses 6 enfants. À Mias, Benjamin Péter, Europe 1.
Et les premiers témoignages sont prévus demain, fin du procès le 7 octobre.
Aux États-Unis maintenant, la pandémie de Covid est terminée. Déclaration formelle de Joe Biden hier soir.
Oui, interview diffusée à la télévision américaine. Tout le monde a l'air en bonne forme, observe le président américain, qui a aussi évoqué l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que je vais me représenter ? Cela reste à voir, a répondu l'homme de 79 ans. 7h36 sur Europe 1, c'est un générique de dessin animé que tous les parents, allez ou presque, connaissent. Vous l'avez, Dimitri, ou pas ?
Oggy et les cafards.
Bien sûr. Incontournable dessin animé, l'histoire d'un chat bleu, Oggy harcelé par un trio d'insectes, Joey, Didi et Marquis.
Oui, des cafards qui n'ont pas bonne réputation, dégoûtants, envahissants, j'en passe. Et bien ce matin sur Europe 1, peut-être allez-vous changer d'avis à leur égard ?
Oui, grâce au cafard cyborg. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien une invention qui pourrait permettre de sauver des vies. Un institut japonais s'est intéressé aux blattes géantes de Madagascar, miam, des insectes que l'homme essaie de transformer en fait en robots pour repérer les victimes des catastrophes naturelles. Vous avez des doutes ? Écoutez les explications de Céline Géraud.
Et si cette blatte répugnante de 7 cm qui grouille parfois dans nos placards devenait l'allié inattendu des secouristes ? Équipé d'un mini sac à dos alimenté par l'énergie solaire, le cafard cyborg va se faufiler dans les décombres, téléguidé par des super capteurs connectés aux zones sensorielles de son abdomen. Stéphane Violet, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille.
Ils vont donc mettre de l'électronique sur le dos, sur le thorax et l'abdomen de l'insecte, flexible, pour ne pas perturber non plus la locomotion de l'animal. Et puis d'être capable d'alimenter une électronique à partir d'un tout petit panneau solaire miniature, ça c'est assez remarquable.
Prouesse technologique, oui, mais se pose la question de l'éthique autour de ces animaux augmentés pour servir les intérêts humains.
J'ai toujours été sceptique sur ces travaux parce que je trouve que ça fait un peu apprenti sorcier, qu'on va piloter des animaux, mais on ne va pas trop apprendre quoi que ce soit sur leur fonctionnement. Mais là, j'avoue qu'ils ont franchi un cap et il peut y avoir effectivement des applications de secours qui peuvent sauver des vies.
Plus agile et plus discret que les robots classiques, ce dispositif pourrait aussi participer à des missions d'espionnage. Alors si vous croisez un cafard avec un sac à dos, soyez vigilant.
Voilà, d'autant plus vigilant que les cafards sont parmi les insectes les plus rapides du monde, jusqu'à 6 km/h pour les plus performants.
Voilà, secouristes, on va bientôt pouvoir les manger.
Cafards secouristes, voilà.
C'est formidable, vive les cafards. Allez, le football pour terminer.
Alors, plutôt le basket,
pardonnez-moi.
Voilà, le basket, évidemment, avec un rêve bleu brisé par un cauchemar rouge et jaune. L'Espagne a donné une leçon de basket à la France hier à l'Euro, 76-88. L'argent donc pour l'équipe de France et l'or pour l'Espagne qui décroche son quatrième titre.
Voilà, c'est la bête noire
et
des
oui.
Français. C'est leur
oui,
cafard
encore.
À eux. Merci beaucoup, Roman. Ok. Merci à vous. Dans un instant, l'édito international de Vincent Hervouet. Tiens, phrase de policier à propos de ce qui se passe à Londres aujourd'hui, de ces funérailles nationales pour la reine. C'est comme organiser le même jour pour les Jeux Olympiques, un mariage princier, le carnaval de Notting Hill et le marathon de Londres. Et oui, parce que Londres, c'est vraiment le centre du monde aujourd'hui, 7h39.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour, l'homme qui murmurait à l'oreille des lecteurs. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Dimitri.
Allez, encore un favori de la rentrée littéraire ce matin.
Exactement, un roman qui mêle la fraîcheur et la nostalgie en même temps.
Il n'y a que des favoris décidément. Et Héloïse Goua pour la cérémonie de la semaine. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde.
Âme sensible s'abstenir, j'ai l'impression.
Oui, mais en même temps, il faut voir cette série dont tout le monde parle. J'étais obligée de vous en parler.
Et c'est les...
Les papillons noirs.
Ah, j'ai fini hier. Bon. Mais je n'en dirai pas plus. Mais d'abord,
on voit votre verdict tout de même.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri.
L'édito international sur Europe 1. Alors, si je, pour parler comme Guy Debord, ce que va nous montrer la monarchie britannique aujourd'hui, c'est la société du spectacle à son paroxysme. Londres aujourd'hui est le centre du monde.
Oui, les chefs d'État et de gouvernement avaient rendez-vous aujourd'hui à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU et la première depuis le Covid avec au programme la guerre en Europe, la crise alimentaire en Afrique, l'inflation partout, le changement climatique aussi. Que des urgences. Et voilà qu'on abandonne tous ces discours que personne n'écoute, sauf ceux qui les ont écrits et ceux qui éventuellement les lisent avec le ton. Fini les Nations Unies, place au Royaume-Uni, c'est là qu'il faut être, hein, prêt à piétiner en silence comme tous les Britanniques qui processionnent depuis 10 jours, prêt à faire de la figuration muette pour être sur la photo, roi, reine, sultan, tête couronnée ou héritier d'anciennes familles régnantes, et tous les premiers de la classe que sont les présidents élus et les premiers ministres. Qui a dit que Londres était has-been, que la city était condamnée? Il y a même un empereur, le japonais, qui n'était jamais sorti de son île. Il manque le tsar, le russe, chassé du club comme un voyou, infréquentable comme le Rocketman de Corée du Nord, le syrien couvert de sang ou le chef des talibans afghans qui restent dans leur cage.
En privant Vladimir Poutine de carton d'invitation, les Britanniques sont cohérents avec leur engagement en pointe en Ukraine. Ils entraînent le reste de l'OTAN. Leur influence est indéniable. Londres est redevenue la capitale de la guerre froide.
Alors un autre absent, c'est le président Xi Jinping. Il n'est pas venu.
Oui, il a envoyé son vice-président Wang Qishan qui est prié de prendre son tour au milieu des 2000 invités. Les Britanniques ont perdu leur empire. Ils ont claqué la porte de l'Union européenne. Ils sont en deuil, en pleine crise politique et sociale. Mais ils continuent de considérer le reste du monde comme des cousins de province. Et ils résistent toujours aux envahisseurs. Le président de la Chambre des communes a interdit l'accès à Westminster à une délégation officielle chinoise. Un affront délibéré qui est une mesure de représailles parce que 7 députés britanniques ont été déclarés persona non grata en Chine après avoir dénoncé la répression des Ouïghours. L'Angleterre traite la Chine d'égal à égal. Elle fait toujours partie des grandes puissances parce qu'elle se conduit comme telle.
Ce sont aussi, Vincent, les premiers pas de Charles III sur la scène mondiale.
Alors, c'est pas le bal des débutants, parce que ça fait un demi-siècle qu'il côtoie les premiers ministres, les chefs d'État, qu'il voyage, il connaît les arcanes de la diplomatie, comme les subtilités du protocole. Hier, c'est un vétéran qui a reçu à Buckingham les dignitaires déjà arrivés. Il faut plutôt le voir comme une sorte de vieux sage. Son premier discours sur le recyclage nécessaire du plastique date de 1971. Et il aura besoin de cette longue expérience pour succéder à sa mère. On dit qu'il veut moderniser la firme. Pour une fois, ça ne veut pas dire dégraisser, ça veut dire simplifier le protocole, alléger les tâches de représentation. Là-bas aussi, le temps de l'abondance est révolu. Il s'agit surtout de protéger le Commonwealth en mettant en avant des urgences communes comme l'environnement. Un vent mauvais souffle dans la Caraïbe, la Jamaïque a coupé les ponts, l'Australie elle-même est tentée par le grand large. Ce qui est quand même curieux pour un pays qui redoute plus que tout de se retrouver seul face à son voisin chinois. Charles III a l'expérience et l'énergie et surtout, il a ce trésor qui s'étale sous nos yeux envieux, le soft power britannique qui fait de Londres ce matin le centre du monde.
Oui, nos yeux envieux, envieux en un mot. Et l'Angleterre fait toujours partie des grandes puissances puisqu'elle se conduit comme telle. Voilà, magnifique phrase. Merci beaucoup Vincent de vos lumières. 7h46.
Europe Matin. Allez, Dimitri Pavlenko.
Place à la littérature, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous parlez d'un roman qui fait partie des favoris de la rentrée littéraire.
Ben oui, je voulais vous en parler assez vite avant que l'été ne finisse complètement parce que c'est notamment un roman sur le mois d'août et la fin des vacances. Ça s'appelle « Que reviennent ceux qui sont loin » chez Gallimard, l'auteur Pierre Adrian.
De quoi parle ce livre ?
Le personnage principal, en quelque sorte, c'est une maison de famille, une maison dans le Finistère Nord, ce genre d'endroit pour ceux qui ont de la chance, où se retrouvent chaque été cousins, frères, sœurs, oncle, tante, grands-parents, et ça va, ça vient, c'est un peu le bazar, mais c'est chouette. Et ce roman raconte l'histoire d'un type d'une trentaine d'années, sans doute l'auteur, qui est parti. Il n'est pas parti fâché, il n'a pas coupé les ponts, c'est juste qu'il a voyagé loin, plusieurs étés de suite, et donc il a manqué 8 mois d'août là-bas, dans la maison de famille. Cette année, il revient et il raconte.
Alors que raconte-t-il ?
Il raconte les vacances, l'été, il se souvient du passé, du mois d'août qui est celui qui ressemble le plus à la vie, dit-il, avec l'enthousiasme, l'ennui et la faim. F.I.N. Il raconte les feux d'artifice du 15 août, l'ennui de l'enfance, les cache-cache dans le grenier, l'odeur du pain grillé le matin, l'adolescence, les aventures, le premier baiser sur la plage elle-même, les pique-niques. Mais maintenant, il a 30 ans et c'est lui le grand et donc il observe différemment. Il y a les petits cousins, les neveux, le petit Jean par exemple, 6 ans, hyper chouette. Le narrateur est un peu blasé, lui. Il regarde ça comme si tout ça était révolu et puis petit à petit, il se reconnecte au présent, au mois d'août, et un drame arrive. Sans qu'on s'en rende compte, ça vous déchire le cœur.
Ça a l'air un peu nostalgique, ce livre.
Hein. Nostalgique un peu, mais sans poussière. Poétique surtout, beaucoup de tendresse, et qui va au-delà d'une chronique des vacances d'été, bien au-delà. 30 ans, de toute façon, c'est un peu jeune encore pour les souvenirs mélancoliques. Et puis, alors, bon, j'étais pas super fan du titre, « Que reviennent ceux qui sont loin ». Oui, mais c'est en fait extrait d'un livre de Pavézé, « Le métier de vivre », placé en exergue du roman, et je vous la lis, parce que j'ai rarement vu une épigraphe collée aussi bien au livre lui-même. Accrochez-vous, ça fait pleurer. Il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts, ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous, désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre, ce petit monde. Mais il n'existe plus. Fin de citation. Il n'existe plus, sauf dans les romans donc. et dans celui-là en particulier.
Que reviennent ceux qui sont loin, signé Pierre Adrien chez Gallimard. Ça sonne, ça colle bien avec ces séjours de funérailles au Royaume-Uni.
Exactement, c'est pile dans l'actu.
Si vous l'avez fait exprès.
Bien sûr que si.
Merci Nicolas. Allez, Héloïse, aujourd'hui vous nous parlez alors des papillons noirs. On a eu la chronique du livre il y a quelques jours de cela par Nicolas Caro. Voilà donc la série.
C'est ça, Nicolas Caro vous a parlé du livre, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de la série qui est déjà un phénomène. Plus d'un million de vues en quelques jours sur Arte.tv. Et puis je le rappelle, vous le disiez Nicolas, c'est pas pour vous doubler, mais Les Papillons Noirs, c'est d'abord une série, un thriller français avec Nicolas Duvauchel et Nils Arestrup en tête d'affiche. Le roman qui est en librairie aujourd'hui est en fait celui qui est écrit par les deux personnages dans la série. Mais les épisodes racontent bien plus que ce qu'on trouve dans le livre. C'est une belle mise en abîme.
Au-delà du livre, que raconte la série, Héloïse ?
Alors, Adrien Winkler, alias Maudit, est un écrivain qui souffre du syndrome de la page blanche jusqu'au jour où un retraité, un certain Albert, l'appelle pour lui demander de rédiger sa folle histoire d'amour dans un livre. Folle, le mot est faible, puisque en fait, Albert et Solange étaient des serial killers qui ont laissé des dizaines de victimes derrière eux dans les années 70. Je ne m'attarde pas là-dessus, car tout ça, toute cette vie, est racontée dans le livre dont Nicolas vous a parlé. Mais voilà ce qu'Albert attend précisément d'Adrien pour raconter cette histoire.
L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Et ça, ça peut pas se raconter. Il faut avoir vécu pour comprendre. Et c'est là que ton talent intervient, Adrien. C'est à toi de retranscrire tout ça, d'imaginer, de ressentir. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi.
Sauf que ce n'est pas que pour ça qu'Albert a fait appel à Adrien. Il ne l'a pas choisi par hasard. Et c'est là que l'intrigue devient intéressante. En fait, on s'aperçoit que les deux hommes ont en commun plusieurs personnes. Ils ont connu des événements assez similaires. Adrien n'en savait rien. Lui, il découvre tout ça en même temps que nous. Mais ce lien étrange qui le raccroche à Albert va le plonger dans des angoisses abyssales qui résonnent avec son enfance. Des angoisses qui vont sérieusement tendre sa relation avec le vieil homme.
Vous allez me finir l'histoire maintenant.
Attends, c'est pas toi qui as dit chronologie de l'histoire ?
Ah, tu vas me faire la morale, toi ? Tu vas me faire la morale à moi ?
Je te fais pas la morale, c'est pas des mots, c'est ma vie à moi.
Mais moi aussi, c'est ma putain de vie, maintenant à moi aussi, putain ! À moi aussi !
Voilà, je peux pas tellement vous en dire plus.
Non, faut plus rien dire.
C'est ça, c'est difficile hein, d'en parler, je marche sur des œufs. Je peux juste vous dire que les révélations pleuvent à mesure qu'on s'approche du dénouement final. Tout est épatant dans Les Papillons Noirs. En plus de speech très bien ficelé qui mêle passé, présent, fiction et réalité, la photographie, l'esthétique est magnifique, on dirait du cinéma. Les images nous font voyager dans le temps avec les codes des séries vintage. C'est un polar ambitieux et j'ai trouvé largement à la hauteur du joli coup que l'équipe a créé avec la sortie du roman en librairie.
C'est à voir, vous l'avez dit, sur Arte.tv, c'est ça ?
C'est ça, tout est disponible sur Arte.tv. Le premier épisode sera diffusé sur Arte, la chaîne, à partir du 22 septembre à 20h55, c'est donc jeudi.
Merci beaucoup Héloïse Goua. Effectivement, c'est une boîte qui se referme parfaitement. C'est parfaitement ajusté.
Ouais, j'aime bien la formule.
Olivier Abou et Bruno Merle. Je donne leur nom parce que c'est eux aussi. Réalisateurs, on ne les voit pas, mais ils ont, pourtant, c'est leur succès.
C'est ça.
Merci Héloïse Goua. Merci Nicolas Caro. Et merci mon cher Vincent. À demain, 7h52.
Maybe.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Les funérailles du siècle aujourd'hui à Londres pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Elles débuteront à midi à l'abbaye de Westminster en présence de 2000 invités, des centaines de dirigeants. Aux États-Unis, Joe Biden maintient le flou sur une possible candidature aux élections de 2024. Le président américain, qui a accordé une interview à la chaîne CBS, a également affirmé que si Taïwan venait à être envahi par la Chine, les troupes américaines défendraient l'île. Et puis, embarras à la France Insoumise, le numéro 2 du parti, Adrien Quatennens, a annoncé se mettre en retrait. Il a avoué hier dans un communiqué avoir giflé sa femme.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est adressé aux préfets. Il a notamment évoqué devant eux le sujet de l'immigration en promettant un projet de loi pour 2023. Il a aussi plaidé lors de cette prise de parole pour, c'est ça qui vous a intéressé, pour une meilleure répartition des immigrés à travers le territoire français.
Tiens, ça nous ramène 20 ans en arrière, hein, quand Jean-Pierre Raffarin avait fait la même proposition. Il y a 8 ans, vous vous en souvenez peut-être, c'est Manuel Valls qui avait parlé, lui, de politique de peuplement. Alors à chaque fois, ça avait déclenché un tollé, et cette fois, ça n'a pas manqué. Les propos sont répandus comme une traînée de poudre. Ils ont réveillé une grande crainte, celle de la dépossession. Vous savez, la dépossession, c'est le cœur du malaise français. Pourtant, cette idée de répartir les immigrés ne devrait pas être dans le projet de loi. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Alors, propos improvisés ou intentions réelles, les mots du président sont très intéressants parce qu'ils expriment parfaitement la déconnexion d'une grande partie de nos élites. Si on regarde de plus près cette idée du repeuplement des campagnes par des immigrés, on voit que rien ne tient debout. Si on se place du côté des immigrés, cela revient à dire que ce sont des êtres interchangeables, des voyageurs sans bagages que l'on peut déplacer ou installer comme bon nous semble. On est plus près de l'utilitarisme que de l'humanisme. Si on se place du côté des populations d'accueil, cela revient à penser qu'elles adhèrent évidemment au destin multiculturel des grandes métropoles, ou pire encore, qu'elles sont du bois mort. En bref, l'immigré et l'autochtone deviennent les objets de la folie et du cynisme technocratique. François Bayrou a beau jeu de s'en prendre aux commentateurs qui agiteraient le spectre d'un remplacement de population, c'était ses mots hier sur Europe 1, mais il sait très bien que ce sont les propos du président qui ont allumé la mèche.
Alors dans le même discours, pourtant, Vincent, Emmanuel Macron a promis de montrer plus de fermeté dans une politique migratoire qu'il a qualifiée d'absurde.
Oui, je vous avoue qu'on s'y perd un peu. Hein. Certes, ça fait plusieurs semaines que Gérald Darmanin durcit le ton sur le sujet. Il a commencé par reconnaître enfin qu'une part importante de la délinquance venait des étrangers. Ce sont ses mots. Et puis il s'en est pris à la double peine. Mais au fond, Darmanin a simplement fait preuve de son flair politique. Quand Marine Le Pen fait 41% des suffrages, quand elle fait élire 89 députés avec pourtant 50% d'abstention dans son propre camp, c'est-à-dire qu'un électeur sur deux du Rassemblement National ne s'est pas déplacé, c'est la preuve que l'immigration anarchique devient insupportable pour les populations. Alors on a raison de se fixer sur les grandes crises contemporaines, sur la guerre en Ukraine, sur la pénurie d'énergie, sur le réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier que l'immigration et le multiculturalisme peuvent partout et à tout instant perturber la vie politique. On l'a vu en Suède il y a 8 jours, on le verra sans doute en Italie dimanche prochain. Le sujet de l'immigration est central en Grande-Bretagne, au Danemark et même en Europe de l'Est. Dans les urnes comme dans les sondages, nous assistons à une révolte des peuples.
Mais l'immigration n'est pas le seul motif de vote, Vincent.
Alors vous avez à moitié raison. Oui. Pour être plus précis, c'est l'immigration comme élément de déstabilisation du système social, d'un art de vivre, d'une société tout entière finalement qui alimente ce vote. En France, il faut ajouter le sentiment de n'avoir jamais été consulté sur un bouleversement démographique qui en 30 ans a profondément transformé le pays. Alors oui, on trouve encore beaucoup de beaux esprits qui continuent de mépriser cette angoisse identitaire, qui vont la caricaturer en nostalgie quand ce n'est pas en racisme, mais en fait leur déni n'est plus tenable. En Europe, l'immigration est devenue la question politique centrale.
Et illustration ce week-end avec ce qui s'est déroulé à Calac dans les Côtes d'Armor, hein, dans ce petit village où il y a un projet d'installation d'un village pour accueillir des réfugiés. On en parlera parce que c'est vraiment l'illustration de ce que vous venez de nous dire. Tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.
Merci Dimitri.
Je signale la une de votre journal Le Figaro ce matin. Évidemment, le monde entier réuni en mémoire d'Elisabeth II. 7h57.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, à suivre juste après le journal de 8h. C'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Le journal de 8h vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Depuis maintenant une demi-heure, le public n'a plus accès au cercueil de la reine, mais beaucoup, beaucoup d'émotions du côté des Britanniques qui se préparent désormais à vivre les différentes étapes des funérailles d'État d'Elisabeth II. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct pour Europe 1 à l'abbaye de Westminster où une cérémonie doit débuter à 11h heure locale, midi heure française. Comment est-ce que ça va se passer ?
Eh bien, porté par 8 soldats, 8 grenadiers, le cercueil de la reine fera son entrée dans l'abbaye de Westminster au son de la cornemuse tout à l'heure. C'est Elisabeth II qui a choisi les prières et les chants de cette cérémonie religieuse. Elle ne la voulait surtout pas ennuyeuse, a confié l'ancien archevêque d'York. Liz Truss, la première ministre, et la secrétaire générale du Commonwealth liront des textes. L'archevêque de Canterbury prononcera le sermon. Et peu avant 13h, heure française, eh bien, la sonnerie aux morts retentira, suivie d'une minute de silence à l'intérieur de l'abbaye et dans tout le Royaume-Uni.
Et ce cérémonial, Stéphane, va se dérouler sous les yeux du monde entier.
Oui, vous avez raison. Par exemple, autour de moi, ici, devant Westminster, on parle allemand, italien, espagnol, il y a les télés américaines, chinoises, et j'en passe à en croire plusieurs journaux britanniques. Plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde vont suivre cette cérémonie. Marc Legrand, producteur à l'Eurovision, fournit ici des moyens techniques à tous ces médias.
Il y a beaucoup de chaînes de télé différentes de tout le monde. C'est très grand, c'est presque comme une Coupe du Monde. Oui, comme matériel. J'ai jamais vu aussi que autant des quarts de régie ensemble pour faire une production aussi grande, c'est unique.
C'est vrai que c'est unique et impressionnant. Et puis, à la une, Dimitri, de la presse britannique ce matin, le visage de la souveraine, évidemment. Mmh. Dieu vous bénisse, titre le Sun, le plus grand des adieux en présence des leaders du monde entier, insiste le Guardian.
Merci beaucoup Stéphane Place en direct de l'abbaye de Westminster à Londres. La journée s'annonce longue pour lui, de même que pour tous les correspondants d'Europe 1. Sachez que de Westminster, une procession partira juste après la cérémonie.
Oui, on fait un bond de quelques mètres et on va en direction de Hyde Park, le plus grand parc de Londres, où on retrouve sur place Lionel Gougelot. Bonjour.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Alors ce sera l'autre moment fort de la matinée, les Britanniques vont pouvoir rendre un ultime hommage à la souveraine au passage de son cercueil dans les rues de la capitale britannique.
Effectivement, d'ailleurs, j'ai pu voir dès 3h ce matin des centaines puis des milliers de personnes pressant le pas, cherchant le meilleur itinéraire pour accéder au parcours de cette procession et apercevoir le cercueil, certains espérant se poster autour de Buckingham Palace ou d'autres à bord de l'Arche de Wellington, près de Hyde Park où je me trouve. Donc c'est là où le cercueil de la reine, donc à la fin de cette procession, sera transféré dans le corbillard royal, direction Windsor où Elisabeth sera inhumée. Ce sera ici en quelque sorte la dernière chance de rendre hommage à la souveraine défunte, d'exprimer son respect, l'occasion aussi d'assister à ce qui restera sans doute l'une des images fortes de la journée, c'est-à-dire le nouveau roi Charles III marchant derrière le cercueil de sa mère.
Lionel, ces événements historiques qui vont se dérouler aussi, il faut le dire, sous très très haute surveillance.
Oula oui, défi sécuritaire hors norme pour les autorités britanniques. Ces obsèques, disait le maire de Londres. C'est un peu comme si on organisait sur une seule et même journée les Jeux Olympiques, un mariage princier, le carnaval de Notting Hill et le marathon de Londres. Depuis ce matin, 10 000 policiers sont mobilisés. Il y a des kilomètres de routes interdites à la circulation. Des forces de l'ordre en alerte maximale, évidemment, pour assurer la sécurité des chefs d'État. Un dispositif particulièrement contraignant, mais finalement plutôt bien accepté par les londoniens.
Cela doit être fait parce que nous avons tellement de chefs d'État présents. Les Anglais sont vraiment patients. Ils aiment bien faire la queue.
C'est un grand événement. La sécurité doit être au même niveau. C'est une bonne chose.
On peut ressentir de la frustration parce que nous ne sommes pas là où nous souhaitons. Donc si cela signifie que nous devons attendre plus longtemps, on le fera, pas de problème.
C'est vrai que pour les Britanniques, l'attente ne fait que commencer à l'aube de cette très longue journée. Mais c'est le prix à payer pour saluer notre reine, me disait tout à l'heure un habitant venu spécialement de Plymouth.
Lionel Gougelot en direct de Hyde Park à Londres, donc pour Europe 1.
Voilà, et ensuite, dans l'après-midi, le corbillard partira, donc après la cérémonie funéraire, en direction du château de Windsor.
Et oui, pour le point d'orgue de ces funérailles à la chapelle Saint-Georges, où une partie de la famille royale est déjà inhumée. Et les précisions avec Stéphane Bern.
Ce qui va se passer en fin de journée, c'est lorsque la dépouille mortelle de la reine Elisabeth va arriver dans la chapelle Saint-Georges. Après la cérémonie religieuse, on va la descendre dans la crypte pour la mettre sous la chapelle dans laquelle sont déjà inhumés George VI, Elisabeth, ses parents, et les cendres de sa sœur Margaret. Et là, dans la crypte, il y a aussi ce qu'on appelle la voûte royale. Et dans cette voûte, si vous voulez, c'est une sorte de grande armoire à sarcophages. Et dans ces sarcophages, il y a notamment le corps du prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui est décédé au mois d'avril 2021 et qui attendait que son épouse la rejoigne au tombeau. Mais elle aurait pu demander à être à Frogmore, là où il y a la reine Victoria, qui est son aïeule, elle aurait pu demander à être à Westminster Abbey, là où il y a Marie Ière, Elisabeth Ière et Marie Stuart. Vous voyez, on a le choix, quand on est souverain britannique, du lieu de sa sépulture. Et ensemble, eh bien, on va les déposer dans cette chapelle, en tout cas sous cette chapelle. Parce que, en réalité, dans la famille royale britannique, on n'enterre pas les membres de la famille royale, on les dépose dans la crypte, sous cette chapelle. Il y aura évidemment une pierre tombale visible dans la chapelle latérale, à côté de George VI et Elisabeth. On verra Elisabeth II et Philippe.
Voilà les détails sur cette, non pas mise en terre, mais mise en crypte d'Elisabeth II, racontée par le spécialiste européen des têtes couronnées, Stéphane Bern. Hors de ces funérailles d'Elisabeth II, le monde, disons-le, continue même de tourner, même si celui d'Adrien Quatennens s'est un petit peu arrêté.
Le député du Nord reconnaît avoir giflé sa femme lors d'une dispute. Il se met donc en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise. Décision nécessaire, Alexis de la Fontaine, face à la pression politique de certains membres de la NUP.
Oui, si Jean-Luc Mélenchon a tout d'abord salué la dignité et le courage de son protégé en lui assurant toute sa confiance, le leader insoumis a rapidement dû corriger le tir en affirmant « je ne suis pas non plus indifférent à sa femme Céline, une giflette inacceptable ». Mais au sein de la France insoumise, malgré un soulagement de façade, en interne l'embarras domine. Encore une fois, un cadre est déchu sur la place publique. Pour Sandrine Rousseau, son allié écologiste, cette démission est insuffisante.
Les violences conjugales, les violences envers les femmes sont absolument inadmissibles et il les a reconnues, donc dont acte, hein, parce que c'est pas si courant que ça, les personnes qui reconnaissent les violences. Et il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique.
Chez les socialistes, un député confie « Maintenant, c'est impossible de manifester à ses côtés », en référence à la manifestation commune du 16 octobre. En réalité, chacun s'éloigne le plus possible d'Adrien Quatennens pour ne pas être éclaboussé par cette affaire. Alors, après de nombreuses divisions ces dernières semaines, cette nouvelle polémique risque bien d'être la goutte de trop pour la NUPES.
Les précisions d'Alexis de la Fontaine.
Enfin, ça brûle encore et toujours du côté de la Gironde.
Oui, cette fois dans la commune d'Arès, où 100 hectares de végétation sont partis en fumée. Le feu est contenu, mais n'était pas encore fixé hier soir, d'après la préfecture. Un peu plus de 300 personnes ont été évacuées par prévention. Et puis en Dordogne, un homme qui tentait de mettre le feu dans un champ de maïs a été arrêté par des témoins, puis interpellé par la gendarmerie. Il s'agit d'un ancien pompier volontaire.
Merci beaucoup, Clotilde Dumais. C'était votre journal. Les obsèques d'Elisabeth II, je vous le rappelle. C'est toute la journée sur Europe 1. Ne manquez pas notre édition spéciale dans Europe Midi avec Romain Desarbres, tous ses invités, les experts, nos reporters sur place pour vous faire vivre l'événement minute par minute. Dans un instant, on va prendre un petit peu de hauteur la dimension géopolitique de ces funérailles. On en parle avec Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'invité de Sonia Mabrouk. 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est un ancien ministre des Affaires étrangères.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Je voudrais citer également deux ouvrages, le dictionnaire amoureux de la géopolitique et vous êtes également l'auteur d'une vision du monde. Le monde, on va en parler, et puis l'histoire, le mot historique est souvent galvaudé, sans doute ne le sera-t-il pas tout à l'heure pour décrire les funérailles de la reine Elisabeth, qualifiée d'obsèque du siècle. C'est vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux.
C'est un point de vue très occidental, ça. Alors, bien sûr, c'est un événement énorme. Et en même temps, c'est le chant du cygne.
C'est-à-dire ?
C'est la fin de quelque chose. Et je crois que les Anglais le savent, le sentent. Et dans ces mouvements de foule autour de la reine, de la mémoire de la reine, d'Elisabeth, il y a le sentiment qui n'est pas loin, que... La Grande-Bretagne n'est plus ce qu'elle était. Ça n'a plus aucun rapport avec ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est-ce qu'on pourra dire longtemps ce terme, vous voyez, était au moment où elle est devenue reine, où il y avait encore l'Empire d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a ce sentiment et que nous assistons, donc, je le répète, à un chant du cygne émouvant. Émouvant. Mais qu'après, il y a l'atterrissage.
La reine a accédé, rappelons-le, au trône après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Occident et l'Europe étaient encore le moteur économique et, oserais-je dire, politique du monde. Nous sommes...
Les États-Unis, c'est l'Europe d'après-guerre. Hein.
Et nous sommes aujourd'hui dans une autre époque totalement...
L'Europe d'après-guerre qui déjà suppliait les États-Unis de revenir pour les protéger.
Ah, déjà, vous la voyez à cette époque-là au pied des États-Unis.
Non, pas elle, mais l'Europe. Après la guerre, ce sont les Européens, ce n'est pas de l'impérialisme américain, c'est les Européens qui demandent aux États-Unis de revenir, d'où l'Alliance Atlantique, dont le Sénat ne voulait pas, il ne voulait pas d'article 5, il ne voulait pas d'engagement. C'est l'arbitrage de Truman. Donc on est dans ces eaux-là, vous voyez, quand l'Alliance est 49, elle devient reine en 52 ou 3, vous voyez. Donc c'est cette époque-là. Donc là, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui n'a rien à voir, les Anglais le savent, il y a eu un déclin relatif de l'ensemble de l'Occident, puisque l'Occident n'a plus le monopole de la puissance. Il y a les Chinois, les autres, etc.
Ce que vous lisiez depuis déjà quelques années ?
Depuis longtemps, mais d'ailleurs, il y a des théoriciens asiatiques qui me répondent, disant, cher ami, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'ils appellent la parenthèse aurait duré, si c'est leur thèse, pas ma thèse, hein, ça aurait duré 4 ou 5 siècles quand même. Enfin, en tout cas, si on revient sur la Grande-Bretagne, c'est tout à fait différent.
Mais c'est-à-dire qu'au moment où Hubert Védrine...
Je comprends cette réaction des Britanniques, c'est émouvant. Hein.
Oui, mais au moment où nous parlons et que les Britanniques sont attachés à cette survivance, cette permanence, à une forme de spiritualité aussi, vous vous dites non, en réalité, il y a quelque chose qui est en train de partir et
non,
les Britanniques le touchent du doigt.
Je pense qu'ils vont rester attachés à l'idée qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait le principe monarchique, donc une reine ou un roi, qui représente la nation dans son essence. Et donc pas le pouvoir qui est conjoncturel, elle avait connu quoi 16 premiers ministres, non?
Oui, exactement.
C'est ça, oui. Donc il y a la dissociation que les autres pays n'ont pas fait, notamment nous, puisqu'il y a la coupure de 89, entre le symbole, l'âme, on va dire, ou le symbole en tout cas du pays,
le sacré,
et le
oui.
pouvoir, l'exercice du pouvoir. Bon, donc je pense qu'ils vont rester attachés à ça, et que ceux qui vont contester, ça sont très minoritaires, en fait. Bon, alors après, on tombe dans le monde réel, où c'est la première ministre qui gouverne la Grande-Bretagne.
Il y a évidemment, on va dire, tous les grands de ce monde, le président américain. Il y a aussi les absents dont on va beaucoup parler, notamment le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez d'abord que ce sont des funérailles très géopolitiques?
Non, c'est
par
pas
la présence
c'est
et
une photographie de l'état du monde aujourd'hui, oui.
Et quelle photo cela renvoie?
Je ne sais pas, qu'est-ce que... Au moment des obsèques de Kennedy, c'est une photographie de l'état du monde, des obsèques du général de Gaulle ou de Mitterrand, c'est une photographie à un moment donné. Bon, on ne peut pas en dire plus de leçons que ça, hein. On ne peut pas surinterpréter.
L'absence de Poutine, évidemment, elle est commentée. Et au moment où la situation en Ukraine, depuis plusieurs jours, connaît une contre-offensive ukrainienne à l'occasion de laquelle des charniers sont découverts à mesure que des zones sont reprises, jusqu'où peut aller cette contre-offensive, Hubert Védrine? De quoi dépend-elle aujourd'hui?
Elle dépend de la décision ukrainienne. Elle dépend des Américains. Parce
des
que
Américains,
l'assistance, ouais. la formation... Les renseignements, y compris dans le courant de la bataille, de façon très très précise, la technologie américaine ont été essentielles. Il n'y aurait pas d'offensive, ça n'enlève rien d'ailleurs à la combativité, au courage des forces ukrainiennes et à leur intelligence tactique, très remarquable. Mais c'est une opération américano-ukrainienne, donc ça dépend de la suite. Et au moment où nous parlons, ça dépend d'abord de la réaction de Poutine au fait que son armée ait dû se... débandé, vous voyez.
Oui, se replier. Mais on a du mal à imaginer qu'il reste ainsi sans réagir, sans même provoquer une escalade.
Alors, réagir, c'est soit une contre-offensive lourde, classique, conventionnelle, s'il en a les moyens, pas sûr, ou une escalade, un élargissement géographique ou une escalade. D'où la mise en garde du président Biden. Donc, ça renvoie à l'usage éventuel, souhaitons que non, de l'arme chimique ou pire, de l'arme nucléaire, même toute petite et tactique.
Nous en sommes là aujourd'hui ?
On en est à se poser la question, sinon Biden n'aurait pas dit ce qu'il a dit à Poutine. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Voyez. Donc il y a cette hypothèse-là, mais il y a aussi l'hypothèse où finalement il y a une contre-offensive qui ne marche pas, l'offensive ukrainienne ne va pas trop loin, parce que les Américains les ont armés, mais pas au point d'aller trop loin. D'ailleurs, vous avez lu, que les Américains n'ont pas donné à l'armée ukrainienne des armes permettant de toucher le territoire russe. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, les Ukrainiens sont capables d'eux. Donc il peut y avoir une sorte de stabilisation, de gel, au bout d'un moment, ce qui ne conduit pas à une négociation, je ne sais pas entre qui et qui, ni sur quelle base, encore moins une solution. Il y a une hypothèse intermédiaire qui est dangereuse, c'est la Crimée. Parce que dans le discours ukrainien, la Crimée est réapparue. Or, du point de vue russe, maintenant, ils ont annexé la Crimée, ils considèrent que c'est russe, donc on peut être dans un domaine de dissuasion. Y compris nucléaire. Et pour tous les Russes, y compris les opposants à Poutine, hein, la Crimée est russe. Mais pour les Ukrainiens, elle est ukrainienne. Donc là, il y a un domaine qui est moins clair que ce que je viens de dire sur le fait que J'imagine que les Américains vont aider les Ukrainiens à continuer l'offensive jusque dans le Donbass. Alors, est-ce qu'ils vont leur demander en même temps de déjà annoncer que dans le Donbass reconquis, dans les zones restées russophones, sans doute moins russophiles qu'avant, en tout cas pas poutinophiles, mais quand même, est-ce qu'ils vont les obliger à annoncer quelque chose sur le traitement, une autonomie ou je ne sais quoi ? C'est beaucoup américain la réponse, même si les Européens, nous les autres, à commencer par l'Allemagne, la France, etc., oui. On aura à se déterminer par rapport à ça.
On aura à se déterminer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore déterminés.
En tout cas, on en est là.
Mais la voix de l'Europe, elle est incarnée, ou en tous les cas, elle est portée par la Commission européenne. On a entendu Ursula von der Leyen dire que la Russie doit perdre cette guerre, dire que Poutine doit répondre de ses actes et être jugé.
Attendez, ce sont deux choses différentes.
Oui,
parce que...
Au nom de qui parle-t-elle ?
Oui, c'est une bonne question, oui. Parce qu'elle n'a pas d'autorité, de légitimité. Alors, il est vrai qu'elle répondait à une question du Parlement européen, qui est une machine.
Certes,
qui,
mais là, elle nous engage.
Elle commence à s'auto-exciter sur tous les sujets, vous savez ça. Bon. Mais la première question, oui, tout le monde est d'accord, enfin, tous les Occidentaux, y compris les Européens, y compris la France et l'Allemagne, que Poutine ne doit pas gagner en Ukraine. Donc, employer tous les moyens, ce qui a été fait, pour qu'il ne puisse pas gagner, sans aller à la confrontation directe. Militaire. Et donc les Américains continuent à dire, il n'y a pas de confrontation directe. Les Russes disent, c'est pas vrai, parce que c'est vous qui les formez, qui les armez, qui les pilotez, qui ceci, qui cela. Mais enfin, on est resté borderline sur ne pas être co-belligérant. En revanche, commencer à dire, il faut le juger, mais qui va juger Poutine ? À la Cour pénale internationale, la plupart des grands pays, à commencer par les États-Unis, Israël et des tas d'autres, n'ont pas ratifié, en fait. Donc la Cour pénale, c'est les Européens et leurs amis. Quoi.
Mais alors quel est le risque avec de telles déclarations aujourd'hui portées par quand même Ursula von der Leyen qui était à la tête de la Commission européenne ?
Je pense qu'elle va trop loin et que c'est un moment vertigineux devant les horreurs qu'on découvre, les charniers. Évidemment, on a envie de réagir. C'est vraiment monstrueux ce que fait l'armée russe, notamment parce qu'elle est mauvaise. Mauvaise, pas formée, pas encadrée, etc. Bon. Mais c'est des horreurs. Donc on comprend sur le plan moral et émotif et l'opinion au jour le jour, on comprend les réactions. Mais il faut avoir le sens des responsabilités.
Il faut être capable de
maîtriser. Si on a réussi à ce que l'Ukraine gagne, il faut maîtriser cette victoire. Donc il faut déboucher sur quelque chose de gérable. Il faut que l'unité des Européens et des Occidentaux puisse tenir dans la durée.
Et pour l'instant, est-ce qu'elle tient?
Pour le moment, oui.
Il y a une homogénéité ?
Homogénéité, c'est trop dire, mais une unité quand même qui n'a pas été rompue. Même s'il y a des voix qu'on entend maintenant dans différents pays... qui disent on a été trop loin, les sanctions nous pénalisent, il faut commencer à les lever, c'est minoritaire encore. Mais on n'est pas dans le pire moment, parce que c'est quand il y aura peut-être les pénuries, en tout cas l'élévation du prix de l'énergie, donc l'inflation qui va durer, selon les spécialistes, c'est là où on verra comment réagissent ces opinions en Europe.
Il faut anticiper ce moment, Hubert Vidrine, où les opinions contraintes à des efforts importants vont se dire oui, c'est important évidemment la démocratie, c'est important de partager des valeurs avec les Ukrainiens, mais pas au prix de sacrifices pour nous-mêmes, pour nos vies quotidiennes.
Écoutez, même moi qui suis de l'école réaliste et qui pense qu'un jour ou l'autre on sera obligé de renouer avec la Russie comme la... C'était le cas pendant la guerre froide, après les moments les pires et les plus dangereux, comme la crise de Cuba. Même moi qui pense ça, je pense qu'il ne faut pas faire le cadeau à Poutine d'une Europe divisée. Donc il faut s'apprêter, anticiper pour tenir. Il faudra résister à la pénurie, à l'inflation. Il faut l'expliquer, trouver des solutions de remplacement. Bon. En même temps, c'est l'occasion de faire des progrès en consommation écologique pour contrebalancer la catastrophe écologique qui fait que tout ça relance le charbon. Alors que la question de la dégradation écologique, c'est-à-dire pas la planète, la vie sur la planète, est quand même le problème numéro un avant même les guerres. Avant. Donc si on pouvait contrebalancer ça par une découverte, la sobriété intelligente, empêchant pas de vivre, ça serait bien. Bon. Donc j'en reviens au fait que dans l'immédiat, il ne faut pas donner à faire à Poutine le cadeau d'une division.
Donc montrer un visage uni,
mais quel visage
à l'Europe aujourd'hui ? Est-ce que c'est une Europe qui est transformée ? Est-ce que vous direz que c'est une Europe américanisée ? Vous avez beaucoup parlé du rôle des États-Unis. Est-ce que l'Alliance, justement, décide de tout aujourd'hui, l'Alliance Atlantique ?
Oui, parce que l'attaque de Poutine, qui est d'ailleurs aberrante, en dehors du fait d'être atroce sur le plan humain et cruel, c'est aberrant, même du point de vue russe. Il était sur le point d'obtenir, grâce à Macron, grâce à Scholz, avec l'accord de Biden, une négociation sur la sécurité en Europe qui n'a pas eu lieu depuis la fin de l'URSS. celle dont Kissinger lui-même regrette qu'elle n'ait pas eu lieu. Il allait obtenir ça. Il prend cette décision aberrante. Bon, donc on est dans un cycle long, on est obligé de d'ostraciser la Russie pour se protéger, en fait, par rapport à ça. Il faut penser à la suite. Mais entre-temps, il a réveillé l'OTAN. Il a réveillé l'esprit de défense en Europe. Tant mieux, parce qu'on en était à deux ou trois générations de bisounours, et c'était dangereux. Il a réveillé l'esprit de défense dans l'Alliance. Vous voyez, l'OTAN est revigoré, élargi, à nouveau, et les États retrouve un rôle majeur.
D'où la question, est-ce qu'on a si encore...
Eux, même si pour eux, le défi numéro un reste la Chine. Bon, donc on est dans une situation où la vision de l'Europe à la française...
Terminée.
Alors, terminée, j'espère que non, mais la question se pose.
Non, mais expliquez-nous, c'est-à-dire que l'Europe telle que nous la voyons depuis des années, telle que nous, Français, et peut-être aussi les Allemands la voient, ça c'est terminé. Le couple, enfin la fameuse expression que vous n'aimez pas d'ailleurs, le couple franco-allemand...
Non, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime beaucoup, mais elle est périmée depuis longtemps. Elle est périmée depuis
ça revient au même. Donc
ça
c'est terminé. C'est une parenthèse qui se referme.
J'espère que non, mais on est obligé de se poser la question que vous posez à juste titre. Qu'est-ce que ça va devenir dans l'Europe de demain ? Élargie, puisqu'il y a des initiatives pour élargir, il y a la vision allemande. Alors, cela dit, il y a la très bonne relance par le président Macron d'une communauté politique où il y aurait tous les pays de la zone grise.
Vieille idée.
Une vieille idée de François Mitterrand, ah oui, qui lui avait mis l'URSS pour aider Gorbatchev. Donc, on ne peut pas le dire comme ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas la Russie, naturellement. C'était relancé par les Italiens, Draghi et l'État. Emmanuel Macron appelait ça communauté politique. Le chancelier allemand reprend à moitié, on va faire un forum, mais c'est déjà bien. Donc il y aura, à partir de l'automne, de temps en temps, des réunions où il y aura les 27 plus une dizaine d'autres.
Europe élargie, Europe transformée, est-ce qu'on a encore le monopole de la puissance ?
Non, alors les Occidentaux, y compris les États-Unis, n'ont plus le monopole. Il y a la Chine, il y a les autres.
Il abaisserait, oui. Il faut qu'on en parle.
Ben, on en parle pas assez, parce que les Occidentaux ont peur de ça. Ça les choque.
Oui, enfin, ça représente plus de la moitié de l'humanité quand même, oui. Donc on est obligé de s'y intéresser.
D'ailleurs, l'élément marquant en dehors des horreurs de la guerre, hein, c'est le vote aux Nations Unies, où une quarantaine de pays représentant 60% de l'humanité n'ont pas voulu condamner, alors que l'agression est flagrante. Non pas qu'il soit automatiquement pour Poutine, mais il ne veut pas être automatiquement de notre côté. Donc c'est ça le monde. Il y a ce monde-là, une Europe élargie, dans lequel la France et l'Allemagne... Même quand les deux pays sont d'accord, voyez, n'arriveront pas à imposer automatiquement leur vision. Ils doivent tenir compte, on devra tenir compte de Pologne, les Baltes,
oui,
les Tchèques.
Mais Hubert, c'est-à-dire que nous, Occidentaux, donc on risque de se heurter à plus de la moitié, je veux dire même oui, plus de la moitié de l'humanité à force de vouloir donner des leçons.
Non, on les a colonisés. On a dominé le monde pendant 4 siècles, à peu près. Et après, on est dans le reflux. Mais un ensemble d'Occidentaux ont oublié que la décolonisation a eu lieu et qu'il faut tenir compte des autres. Parce qu'ils pensent que, certains d'entre eux, que nous sommes restés, disons, l'avant-garde de l'humanité, l'avant-garde morale, et on le voit bien dans la prétention à sanctionner,
à s'ingérer, il va être douloureux le réveil.
À juger.
Il va être douloureux le réveil.
Oui, mais ça fait des 20 ou 30 ans que c'est là. Bon, il est temps de réaliser, mais pas pour déprimer, pas pour raser les murs, pas pour abandonner nos valeurs chez nous. Mais ce qui est en jeu, c'est le prosélytisme. Qui ne fonctionne plus. Donc on est obligé de rentrer dans une phase plus réaliste, plus kissingerienne, dans laquelle il faut être capable de traiter avec tous les grands ensembles autres, et notamment la Chine, bien sûr, et notamment l'Inde. Vous avez vu d'ailleurs que les alliés, entre guillemets, les amis de Poutine, essaient de le freiner un peu. Mm-hmm. Donc ça, conjoncturellement, c'est pas mal, ça. Mais après, il n'empêche que nous, les Occidentaux, il faut qu'on soit moins arrogants, plus réalistes, pour défendre notre mode de vie, notre culture, notre civilisation.
Et voilà les leçons ce matin. Éloge de la lucidité par Hubert Védrine. Je vous remercie, Hubert Védrine, d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous.
Merci Hubert Védrine, merci Sonia Mabrouk. Tiens, l'Ukraine, la Russie, on va en parler dans un instant avec Philippe Val. On parlera d'OGM avec Emmanuel Ducrot et de politique de répartition des immigrés dans le Club de la Presse Europe 1, 8h40.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 1, 8h31, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamar.
Londres se prépare aux funérailles du siècle, dernier hommage à la reine Elisabeth II. Les obsèques débuteront à midi, heure de Paris, à l'abbaye de Westminster. 2000 invités attendus, des centaines de dirigeants et de têtes couronnées du monde entier. Une cérémonie hors norme que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1 dans Europe Midi avec Romain Desarbres. Édition spéciale de midi à 13h avec des invités et tous nos envoyés spéciaux dans la capitale britannique. Aux États-Unis, Joe Biden entretient le suspense sur une possible candidature à la présidentielle présidentielle de 2024. Le président américain qui a accordé un entretien à la chaîne CBS lance un avertissement à la Chine. Si elle envahit Taïwan, l'Amérique défendra l'île. La France insoumise plongée dans l'embarras après les aveux d'Adrien Quatennens. Le député du Nord et numéro 2 de LFI reconnaît avoir donné une gifle à son épouse et annonce se mettre en retrait du parti. L'arrestation d'un homme en Dordogne, ancien pompier volontaire, des témoins l'ont appréhendé alors qu'il tentait de mettre le feu à un champ de maïs et appeler les gendarmes. Le pyromane présumé qui était en état d'ivresse est en garde à vue. Pas de titre de champion d'Europe pour les basketteurs français battus en finale de l'Euro par l'Espagne. Défaite 88 à 76 des vice-champions olympiques qui ont le regard désormais tourné vers le Mondial 2023 et les Jeux de Paris 2024.
Merci beaucoup Christophe Lamar. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Alors Anissa, il va y avoir du soleil, mais je ne sais pas pourquoi mon radiateur commence à me faire de l'œil là.
Oh là là, oui, il fait froid. On a battu un record, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a une demi-heure. Il n'a jamais fait aussi froid un 20 septembre depuis 10 ans. La dernière fois, c'était le 20 septembre 2012 avec une moyenne sur 24 heures qui était à 6,15 degrés. Et là, nous sommes à 7,3 degrés. Sur 24 heures, évidemment. Alors c'est sur la moitié nord qui fait le plus froid. On a 2 degrés à Montluçon ce matin, 4 pour Aurillac, c'est frais. Hein. 7 à Besançon et Brest, 9 à Paris et Lille, 12 à Marseille, 16 à Nice. Dans le sud, il fait toujours très doux. Cet après-midi, 17 pour Dunkerque, 18 à Clermont-Ferrand, 20 degrés pour Paris et Lyon, 23 pour Biarritz au bord de la Méditerranée, c'est chaleur, 26 à Marseille et jusqu'à 30 à Toulon. Dans le ciel, pas grand-chose à signaler. Attention au brouillard encore tenace sur la moitié nord. Ça va se dégager au fil des heures. Dans le sud, c'est du grand et beau soleil, quelques nuages d'altitude sur les Pyrénées, rien d'inquiétant, mais attention, Mistral et Tramontane qui se renforcent jusqu'à 70 km/h aujourd'hui.
Merci beaucoup Anissa. Chercher un proverbe style septembre en visant Noël au balcon, mais non, ça n'existe
non,
pas.
Non, oui, bon, on va essayer d'en inventer.
On va trop bien dire ça. Merci. 8h34.
7h, 9h, Europe Matin.
L'heure de signe des signatures Europe 1 et comme tous les lundis, c'est Philippe Val qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Dimitri.
Bon, avant de vous donner la parole, je salue Emmanuel Ducrot qui est avec nous pour sa chronique en absurde dans 3 minutes. Vous allez nous parler d'OGM ce matin.
Oui, c'est pour se réveiller en forme, voilà. Sans s'énerver.
Mais d'abord Philippe, ce matin vous avez décidé de nous parler en latin.
Oui, mais enfin rassurez-vous, je vais traduire. Ultimi barbarorum, vous êtes les derniers des barbares. C'est ce qu'écrivit le philosophe Spinoza sur une affiche dans la nuit du 26 août 1672. Il venait d'apprendre que les frères Jean et Cornelis de Witt, favorables à un régime démocratique, s'étaient fait massacrer par une foule excitée par les orangistes, militants d'une dictature monarchique. Dans la vie de Spinoza, c'est le seul épisode où on le voit céder à une haine que sa philosophie range au nombre des passions tristes dont nous devons à toute fin nous préserver. Mais Spinoza savait que les hommes sont des hommes et que lorsqu'une poignée d'abrutis compromet le bonheur et la liberté de tous en agissant par la terreur, il est difficile dans un premier temps de ne pas céder à la haine.
Mais dites-nous Philippe, est-ce qu'il vous est arrivé personnellement de ressentir de la haine ?
Rarement, mais j'ai un souvenir tenace. Je vous parle d'un temps que ceux qui n'ont pas été collégiens d'un internat religieux au milieu du siècle dernier ne peuvent pas connaître. On dormait dans des dortoirs de 80 lits surveillés par des pions, logés dans deux cabanes à chaque extrémité du dortoir. Vous voyez la scène ? De temps en temps, au milieu de la nuit, un trio d'imbéciles déclenchait une bagarre bruyante qui faisait jaillir les pions de leur chambre. Furieux, ils allumaient toutes les lumières, nous obligeaient à nous lever et à nous mettre à genoux devant nos lits. Ils attendaient que les coupables se dénoncent, ce qui n'arrivait jamais. On était donc 80 à grelotter en pyjama à genoux sur le carrelage. On était 80 à haïr en silence trois petites terreurs.
Et vous leur avez gardé rancune, Philippe ?
Évidemment non, ce sont des bêtises d'enfants que j'avais oubliées. Mais ça m'est revenu en mémoire en lisant une étude d'opinion publiée par le Yalta European Strategy et la Fondation Jean Jaurès. En mars dernier, 72% des Français étaient favorables aux sanctions contre la Russie, contre seulement 12% séduits par la virilité de Poutine. L'étude montre que ces 12% sont composés essentiellement de 42% d'électeurs de Mélenchon et 22% d'électeurs de Marine Le Pen.
Alors, dans une démocratie, Philippe, 12%, c'est quand même pas suffisant pour emporter une décision.
Oui, mais c'est sans compter sans la force de la propagande et des réseaux sociaux et l'explosion des théories complotistes. Au moment où chaque citoyen s'apprête à partager les sacrifices que nous impose la violation des frontières de l'Europe démocratique par l'armée russe, une petite minorité cherche à convaincre la majorité que la hausse des prix et les économies d'énergie douloureuses sont la conséquence de l'incurie de nos régimes de liberté. C'est la faute à Macron, à EDF, à la Commission de Bruxelles ou à l'OTAN, mais jamais la faute à Poutine. En conséquence, les eurodéputés du Rassemblement national ont refusé de voter les sanctions quand d'autres d'extrême gauche se sont abstenus. À l'échelle du monde, ils se conduisent comme le trio d'imbéciles de mon pensionnat qui condamnait 80 enfants à grelotter à genoux au milieu de la nuit.
Il y a quand même des différences entre les deux situations, non ?
Certes, mais c'était des enfants. Là, ce sont des adultes et ils n'ont aucune excuse. Ils ne peuvent ignorer que le but de Poutine est de faire tomber l'Europe comme un château de cartes avec une guerre qui ajoute aux problèmes liés à l'immigration, une crise économique et une désinformation massive qui fragilise la paix civile des pays européens. Déjà, la Suède trébuche, l'Italie vacille. En contestant les sanctions, cette minorité encourage Poutine à mettre l'Europe à genoux pour la plonger dans la nuit. Ils sont ultimi barbarorum. Mais que les derniers des barbares ne doutent pas une seconde qu'un jour l'histoire les couvrira de honte. Cette autre passion triste dont Spinoza disait que la raison devait nous préserver.
Je sens que ça va faire réagir votre édito ce matin, mon cher Philippe. C'est pas du genre à vous effrayer ça, non. En tout cas. Merci beaucoup Philippe. Il y a quand même un vrai sujet autour des sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce qu'elles punissent la Russie ou le régime de Vladimir Poutine ?
Le régime de Vladimir Poutine, c'est le régime de la Russie.
Ouais. Bon, c'est un vaste sujet. Merci en tout cas, mon cher Philippe. Je me tourne vers vous, Emmanuel Ducrot. Bonjour, votre chronique en absurdie ce matin. Vous nous parlez de cette réunion des ministres de l'agriculture des 27. Ils étaient réunis à Prague vendredi pour discuter sécurité alimentaire, c'est dans l'air du temps. Face au changement climatique, est-ce qu'ils iront jusqu'à assouplir la réglementation sur les OGM ? Tiens, la question revient. 10 ans tout pile après la publication des fameuses études du professeur Serralini sur les effets des OGM, c'était une de l'Express, si j'ai bonne mémoire.
Du Nouvel Obs,
vous avez raison. Vous voyez une certaine ironie à cette symétrie des situations.
Ces études conditionnent depuis 10 ans notre manière d'envisager le débat scientifique sur les technologies végétales. Je dis conditionne, je devrais dire pollue. Je vais faire un petit rappel des faits pour ceux qui ont perdu dans leur mémoire cet épisode. Le 19 septembre 2012, il y a donc 10 ans. Tout pile, le Nouvel Observateur publie un dossier choc. Les résultats d'une étude menée par un chercheur, Gilles-Éric Serralini, donc assez militant. L'étude semble prouver que le maïs génétiquement modifié, OGM donc, provoque d'affreuses tumeurs sur des rats. L'article est accompagné de photos qui les montrent totalement déformés, monstrueux. Ça fait très très peur et il y a une vague d'indignation médiatique et politique.
On parle que de ça à l'époque, c'est vrai, ça fait très peur. À raison quand même ces photos de rats là.
À tort, car très vite, les scientifiques s'aperçoivent que l'étude est pleine d'erreurs. L'espèce de rat choisi pour avaler le maïs est connue pour développer des tumeurs en vieillissant. Rien à voir avec les OGM et tout dans l'étude est bancal de A à Z. Le texte est d'ailleurs très vite retiré des publications scientifiques, réfuté par de nouvelles expériences. Ça a d'ailleurs coûté très cher. L'étude est totalement discréditée aujourd'hui. C'était un ratage total.
Pourtant, cette étude continue de peser sur le débat public.
Et oui, l'étude Serralini a fait ce qu'on appelle un croche-patte à la science. Elle a imprégné l'inconscient collectif européen de l'idée que les OGM sont un danger pour la santé. Elle a réussi à imprimer cette image des rats à tumeurs et tout ce qui en découle dans notre imaginaire. Les OGM sont une nourriture Frankenstein, ils donneraient le cancer, autant de choses que vous avez tous sans doute entendues et qui sont fausse. Elle a manipulé par la peur, elle a empêché toute réflexion sereine. Le mal était fait. L'étude Serralini continue à être exploitée par les opposants des OGM. Des OGM, oh, pas ouvertement, hein. Mais vous savez, quand on commence à vous parler des dangers sur votre santé, vous avez forcément des choses qui vous viennent à l'esprit. Ils savent, ces opposants, que c'était faux, mais ils conditionnent les réactions par la terreur. La légende urbaine a même imprimer sa marque sur la loi.
Il est peut-être temps d'en sortir de cette terreur, non ?
Il est plus que temps d'en sortir, parce qu'à cause de l'héritage Serralini, on étouffe tous
le débat sur les biotechnologies végétales. En balançant le mot qui tue, OGM, on laisse l'inconscient collectif faire le reste. Des nouvelles techniques de génétique des plantes existent pourtant. On ne mélange plus les espèces comme on le faisait au temps des premiers OGM. On corrige le génome, on l'édite comme on édite un texte sous Word. On enlève les fautes de frappe de la nature, on met en avant certains mots. On l'aide à s'adapter à la sécheresse, aux maladies. Et c'est pour avoir accès à ces techniques que plaident les ministres européens. Une de ces techniques, d'ailleurs, c'est ironique, a été conçue par une Française, Emmanuelle Charpentier. Elle a eu un prix Nobel pour ça en 2020.
Oui, cette technique, c'était le ciseau génétique, hein, CRISPR-Cas9.
Voilà.
Ces techniques sont mises dans le même sac que les OGM.
Eh oui, il y a un tel tabou qu'on ne peut même pas les expérimenter en labo pour en décider en connaissance de cause. L'étude Seralini fait peser une chape de plomb sur la réflexion de nos dirigeants. Elle annihile toute capacité d'innovation.
Oui, au nom du principe de précaution.
Exactement. Il y a quand même quelque chose d'incroyablement absurde de se priver par principe d'une avancée technique à cause d'une terreur fabriquée de toutes pièces il y a 10 ans. Cette peur nous prive de notre capacité de jugement éclairé. C'est un toxique politique puissant. Elle empoisonne l'esprit, l'avenir et la rationalité bien plus sûrement que tous les OGM du monde.
Ben voilà, votre chronique aussi, je pense qu'elle va faire réagir, ma chère Emmanuelle Ducrot. Merci. Mais ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé des OGM, décidément. Bravo d'avoir remis le sujet sur la table. Merci Emmanuelle. On se retrouve demain, Philippe. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans un instant, on continue à défricher l'actu. C'est le club de la presse européen. Carole Barjon, Delops et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles seront avec nous.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Le club de la presse européen, nos deux plumes du jour, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Mesdemoiselles, pardon. Deux thèmes pour vous qui font l'actualité.
Ah non, c'est interdit,
Dimitri. On n'a pas le droit là. Hein.
Ah bah oui, ça sous-entend une conversation sur vos statuts maritaux. Bref, on laissons tomber. Parlons plutôt de nos sujets du jour. La valeur travail, ça travaille la gauche justement, très intéressant, beaucoup à dire. Et l'immigration. Jeudi dernier, Emmanuel Macron, devant les préfets, a plaidé pour une meilleure répartition des immigrés sur le territoire français. Alors il explique, quand on relit le verbatim de sa déclaration, que c'est justifié par le fait de la très forte pression migratoire qui pèse sur le pays. Et comme cette immigration se concentre dans nos métropoles, voilà, il faut répartir la charge. Éparpiller façon puce, l'aurait peut-être dit Audiard il y a quelques années. Voilà. Voilà. Et donc, on a une illustration dans l'actualité des répercussions potentielles d'une telle politique dans les Côtes d'Armor, dans ce petit village de Calac. Manifestation d'opposants à l'ouverture d'un centre de réfugiés, c'était samedi, et une contre-manifestation simultanément. Carole Barjon, je commence avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, dans cette idée du repeuplement des campagnes par des immigrés? Enfin, peut-être qu'est-ce qui va aussi comment comprendre qu'Emmanuel Macron remette cette idée sur la table? Vincent Trémollet de Villers nous rappelait qu'il y a 8 ans, elle avait été déjà formulée par Manuel Valls, il y a 20 ans par Jean-Pierre Raffarin. Ça revient régulièrement.
Alors, il y a deux choses, hein, il y a plusieurs choses dans cette affaire. Vous avez évoqué le reportage qui est paru dans le Figaro sur Calac, où effectivement il y a une fondation ou un fonds de dotation privé qui a passé un partenariat avec le maire pour accueillir un certain nombre de réfugiés dans ce village de 2200 habitants. Ça, c'est une chose, mais...
Réfugiés politiques, hein.
Il s'agit... Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il s'agit de réfugiés. Dans ce qu'a dit... ça pose quand même le problème de... Est-ce qu'il y a une privatisation un peu d'un domaine régalien?
Oui, une délégation de la politique migratoire. Façon Resto du Cœur, mais dans le domaine de l'immigration.
Donc ça, c'est bon, ça soulève cette question-là.
Oui.
Bien. On voit qu'à travers ce reportage, que la population s'inquiète, s'angoisse, il y a des pétitions, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Macron, lui, a parlé d'étrangers. Alors, est-ce qu'il n'a pas été suffisamment précis dans ses propos? Est-ce qu'il s'agit effectivement de répartir sur le territoire tous les étrangers qui arrivent en France, qui obtiennent des visas, et pas seulement les réfugiés? Je rappelle que les réfugiés... c'est 40 000 l'an dernier, par exemple, hein, les réfugiés politiques, ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Donc, et il y a déjà les concernant une directive qui fait qu'ils sont déjà répartis. Donc ça, c'est pas très nouveau concernant les réfugiés. Si on comprend bien ce qu'a voulu dire Macron, qui a utilisé, lui, le terme d'étranger, sans préciser, voilà, s'il s'agissait de gens qui obtenaient des visas, etc., au-delà des réfugiés, là, ça veut dire que ça va être une politique, oui, de peuplement.
Ouais. Merci. Et... Alors, c'est très important, toutes ces précisions que vous donnez. Charlotte Dornelas, je sais que vous êtes aussi experte de ces questions d'immigration. Alors, Carole Barjon dit que c'est 40 000 réfugiés l'an dernier qui ont obtenu, pour des demandes qui sont trois fois plus élevées à peu près. Mais c'est pas toute l'immigration, évidemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron, on suppose qu'il pense à ces 40 000-là ou l'immigration en général?
Emmanuel Macron n'est jamais très précis sur ce sujet. On ne le sent moins intéressé que d'autres par la question. Mais c'est, lui parle de la pression que ça fait peser. Donc c'est évident que la pression qui fait peser, tous les reportages qu'on voit, c'est énormément de personnes qui sont rentrées clandestinement, qui sont ou pas en demande d'asile et qui, dans la plupart des cas, puisque ce sont les chiffres qui nous le disent, seront déboutées du droit d'asile et sont impossibles à expulser, selon les mots même de son ministre de l'Intérieur, encore récemment, qui disait qu'il faut mettre cette procédure sur la table, c'est impossible d'y arriver. On a tous en tête quand même le fiasco autour de l'imam, où le ministre de l'Intérieur lui-même se met matin, midi, soir, met tout son ministère au service du truc et n'y arrive pas. On comprend que c'est difficile. Je note par ailleurs que même le statut de réfugié, aujourd'hui, sur la question de la procédure, pose problème. Oui. Évidemment qu'en soi, la question des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui rentrent très directement dans le cadre du droit d'asile, ne pose de problème à personne. D'ailleurs, personne ne remet en cause le droit d'asile strict. Le problème, c'est que pour prendre un exemple, évidemment,
c'est une filière comme une autre aujourd'hui.
Qui ne pèse pas sur tout le monde, c'est évidemment
personne ne remet en cause, mais dans ce village, par exemple, il s'agit bien de réfugiés.
Pourquoi, justement ?
Et ils ne veulent pas les accueillir.
Pourquoi ? Parce que le statut de réfugié, c'est-à-dire initialement les combattants de la liberté, alors vous allez me dire c'est un terme assez vague.
Oui, c'est Solzhenitsyn, le réfugié politique.
Voilà, initialement c'est Solzhenitsyn et qui s'est peu à peu étendu à beaucoup d'engagements politiques différents. Il n'y a pas nécessairement directement de menace de mort ou de nécessité impérieuse de venir en France, mais la définition s'est étendue. Je vous rappelle quand même que la famille de l'assassin de Samuel Paty était sous le statut de réfugié contre l'avis de l'OFPRA sur décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Oui.
Donc, il avait le statut de réfugié. Depuis l'affaire de Samuel Paty, ils sont retournés en Tchétchénie. Donc, réfugiés, mais enfin, apparemment, ils n'étaient pas non plus menacés directement.
Si on fait une lecture un peu politique de ce qui se passe à Calac, bon, on a cette chorégraphie classique. D'un côté, les inquiets du grand remplacement. De l'autre, ceux qui disent oui, mais non, tout ça, ce sont des fascistes, ceux qui ont peur ou qui ne veulent pas de ces immigrés. Et on a les paroles des gens du village qui sont cités par le Figaro, des gens qui disent bah, nous, on a 18% de chômeurs dans le village. On nous dit que ces gens vont prendre des emplois dont on ne voudrait plus, dont les jeunes Bretons ne voudraient plus. Ben non, c'est faux. Il y a des tas de gens ici qui cherchent un emploi dans les EHPAD, par exemple. Et tout le monde ne trouve pas un emploi. Bon, voilà. Il y a tous ces aspects-là qui viennent se mélanger les uns aux autres, Carole Barjon.
Bah, en clair, ce qu'on comprend, c'est que ils craignent qu'au fond, ce qui se passe en Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, s'exporte dans les campagnes. Et même François Bayrou, qui est un allié politique d'Emmanuel Macron, a mis en garde hier en disant si on agite le spectre du grand remplacement, il ne faudra pas s'étonner, en gros, qu'éventuellement le Rassemblement national arrive au pouvoir comme en Suède. Bon. Enfin, il n'est pas au pouvoir en Suède, il soutient le nouveau gouvernement. Mais en clair, ça veut dire que les habitants ont besoin d'être rassurés, notamment sur la maîtrise de la langue française. Est-ce que ces gens arriveront en étant en maîtrisant le français, en ayant une formation professionnelle? C'est ce qu'a dit le président de la République dans son discours devant les préfets la semaine dernière.
Oui.
Mais on attend effectivement des précisions, c'est-à-dire est-ce que ça va être fait ? Comment ? Dans quelles conditions ? Et est-ce que ce sera préalable à la décision ensuite de déplacer ces gens ?
En tout cas, l'expression de peuplement est quand même symboliquement extrêmement forte. Est-ce que vous pensez que ça, l'immigration est devenue la question politique centrale? C'était la conclusion tout à l'heure de l'édito de Vincent Trémolet. Bah,
c'est une question politique centrale qui, à chaque fois qu'on a un débat...
Lui disait c'est la question centrale.
Oui, mais à chaque fois qu'on a un débat public au moment d'une élection, tout le monde nous explique par A plus B pourquoi en fait c'est pas si central que ça, pourquoi en fait ça n'intéresse pas vraiment grand monde et pourquoi il faut surtout pas que l'élection se joue là-dessus. Pourquoi? Précisément parce qu'on a un débat complètement binaire depuis des années où il y a les gens contre et les gens pour, et si vous avez le malheur de dire on a quand même un problème et simplement commencer par là, vous êtes déjà dans le camp des fachos, comme ça c'est beaucoup plus simple, ça rend impossible la discussion. Et je note simplement que Emmanuel Macron en parle extrêmement rarement, et je pense que ça participe aussi de l'énervement, c'est que quand vous n'en parlez pas, que vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit régulièrement ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à gérer les entrées, une fois que les gens sont là et qu'on les déboute du droit d'asile, on n'arrive pas à les sortir.
Puis là Emmanuel Macron en parle indirectement aux Français puisqu'il s'adresse au préfet en fait.
En plus il s'adresse au préfet, et tout à coup dans la bouche à la fois du président de la République et dans notre débat public, surgissent des noms de villages ou de petites villes qui n'intéressent jamais personne le reste du temps. Et tout à coup, c'est à eux de participer. C'est toujours à eux de faire tous les efforts du monde. Et
enfin, il en parle pas directement aux Français, cette fois-ci, c'est vrai. Et souvent, c'est vrai sur ce sujet-là, on le sent un peu gêné aux entournures. Malgré tout, il a annoncé au préfet qu'un projet de loi serait déposé là-dessus, sur ce sujet, début 2023.
Et je précise que la politique de peuplement, entre guillemets, ça ne serait pas dans le projet de loi. Ça, c'est important. Il le dit quand même. Il le dit. C'est une réflexion que nous devons avoir.
Oui.
Mais ça n'est, il n'est pas prévu à ce stade que ça figure dans le projet de loi.
En revanche, comme il a dressé quand même un constat d'échec devant les préfets, parce qu'il faut bien le dire, il a quand même dit, aujourd'hui je le dis, force est de constater que je n'ai pas réussi à changer les choses.
Ouais.
Et en fait... ce qu'on comprend, c'est que il a cédé à sa première ministre Elisabeth Borne sur le fait de repousser ce texte dont Gérald Darmanin voulait qu'il soit examiné très vite, à l'automne. Donc, il a cédé à sa première ministre sur le calendrier. En revanche, sur le contenu du projet, moi, d'après ce qu'on me dit, en tout cas à l'Élysée, il veut assez considérablement durcir la législation.
Bon, travail à gauche, on ne va pas avoir le temps d'en parler. C'est fort dommage, j'avais tant à dire. La gauche qui déconstruit la valeur travail. J'aimais bien cette formule, je vous la donne juste. Ça, c'est pour me donner matière à réflexion à nos auditeurs. Jusqu'à présent, la gauche voulait libérer le travail. Elle se battait pour améliorer les conditions de travail, le partage des emplois, etc. Aujourd'hui, elle entend nous libérer du travail.
Et elle voulait par ailleurs émanciper l'homme précisément par le travail, qui était une forme d'accès à la liberté.
Voilà, écho à la proposition de Sandrine Rousseau d'inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. On se le garde pour la semaine prochaine.
D'accord. Voilà.
D'ici là, 50 sujets, on aura oublié. Mais j'aimerais bien qu'on l'aborde parce que c'est
un sujet éternel entre les deux gauches.
Voilà, et qui donne le là dans ce débat, encore une fois, Sandrine Rousseau. Décidément, elle est extrêmement forte.
Très forte.
Merci à toutes les deux. Carole Barjon de l'Obs, Charlotte Actuelle, je l'ai
dit. Charlotte Dornelas.
De Valeurs Actuelles. Bonne journée à toutes les deux. Place à Culture Média sur Europe 1. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Dimitri.
Tiens, vous me laisserez 10 secondes pour annoncer quand même Romain Desarmes tout à l'heure, la spéciale Elisabeth II. Mais d'abord, vous nous donnez le programme de votre émission.
Mais c'est vous venez déjà de faire les 10 secondes. Donc, c'est fait. C'est comme quand les gens disent est-ce que je peux te poser une question ?
Oui.
Puis
il
dit bah, c'est fait. Deux infos médias du jour, deux grosses actus médias aujourd'hui. D'abord les funérailles de la reine Elisabeth II. Comment elle-même, auparavant, quand elle était là, et la famille royale communique, puisque tout ça est un plan longuement mûri et préparé. Et deuxièmement, la fusion annoncée, qui devait être la fusion du siècle, qui ne se fait pas. TF1-M6 est tombé ce week-end par un simple communiqué.
Alors après bon, ce vendredi.
On en parlait. Finalement, ça ne se fera pas. Et on sera avec Olivier Hubertali, spécialiste média au journal Le Point, pour parler de cette chose-là. Au sommaire également, vous vous souvenez du bazar de la charité qui avait cartonné Audrey Fleurot, Julie de Bonnat, Camille Lou, la même équipe arrive sur TF1 ce soir, s'appelle Les Combattantes, avec une petite nouvelle. Sophia et Saïdi, dans ce trio, elle sera avec nous. Et la productrice, heureuse productrice, Iris Boucher, qui a fait une coprode avec Netflix. Et puis Virginie Efira, peut-être l'actrice la plus demandée du cinéma français, elle est dans le film qui sort ce mercredi, Les Enfants des Autres. Elle n'est pas dans le film, elle porte le film.
Oh là là, okay, encore l'événement est sur Europe 1, grâce à vous, mon cher Philippe. Bonne émission jusqu'à 11h.
Et vos 10 secondes, il vous restait 2 secondes.
Voilà, et à partir de midi, je vous rappelle, Europe Midi, Romain Desarbres et tous ses invités pour suivre en direct les funérailles d'Elisabeth II. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain matin, 7h. Bye bye.